Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 160e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 5 septembre et c'est une grosse semaine de sortie qui nous attend avec la plupart des grosses attentes qui arrivent dès le début du mois de septembre. Le début du crossover X-Men Battle of the Atom, mais aussi la suite d'Infinity. Du côté de l'indé, nous aurons des nouvelles séries et la suite de Trillium. Et enfin, chez DC, c'est le lourd, avec le départ de Forever Evil, mais aussi des premiers numéros du Villains Month, les fameux 23.1, et toutes les origin stories des plus grands vilains de l'univers DC. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour faire le tour de toutes ces sorties qui nous ont ruinés, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Mais aussi Flo.
Bonsoir, chers auditeurs.
Ça va les gens? Bien?
Très bien, très bien.
Très bien.
Vous vous sentez pas trop léger d'avoir perdu autant de fric?
Ça fait bizarre en début de mois, mais comme ça déjà.
Si. Ça fait mal.
Et ce n'est que le début du mois, c'est ça qui est terrible.
C'est ça, ouais.
Allez, on va commencer par Marvel avec la grosse sortie de ce mois-ci chez Marvel. C'est le début du crossover Battle of the Atom. On va cumuler le Battle of the Atom et le All New X-Men numéro 16 qui sont les deux premières parties de ce crossover. Et c'est Flo qui va nous parler de tout ça.
Oui, donc je vais faire les crédits tous en même temps. Battle of the Atom numéro 1 qui est le début du crossover. Et donc les deux sont écrits par évidemment Brian Michael Bendis.
Ouais.
Battle of the Atom 1 est dessiné par Frank Cho et les 5 dernières pages qu'il a pas eu le temps de finir sont faites par Stuart Immonen. Et All New X-Men 16 est dessiné par Stuart Immonen.
Qui a donc le temps de faire son épisode ainsi que 5 pages supplémentaires.
Voilà. Alors que Frank Cho n'a pas le temps de faire 20 pages.
Franchement, c'est pas du très bon Frank Cho. Déjà, disons-le clairement. Je trouve que c'est du petit Frank Cho.
C'est vrai, c'est assez grossier. Enfin, le trait est net, l'ancrage est net, comme d'habitude, mais c'est pas très, 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 très élégant. C'est sympa.
Il y a même des pages qui, moi, j'ai trouvé moches, perso. Mais...
Oh, j'ai pas remarqué. La
première double, je l'ai pas
ah,
trouvé
oui,
très
oui,
jolie.
Tout à fait. Oui, c'est clair.
Mais je me demande si c'est bien du Frank Cho, si ce serait pas du Immonen, honnêtement.
Non, c'est les dernières pages qui sont du Immonen. Pour l'histoire, si vous êtes déjà au courant des pitchs d'Uncanny X-Men et de All New X-Men, vous savez que les X-Men du passé ont été ramenés par Beast dans le présent pour montrer à Cyclope que voilà, tu vas devenir un monstre après et c'est nul. C'est à peu près ça. Non, mais c'est ça, non?
C'est vrai.
C'est ça, voilà. Bon. Et là, en gros, c'est les X-Men du futur qui arrivent dans le présent pour dire aux X-Men du présent et aux X-Men du passé, attention, vous faites des conneries. Si vous arrêtez pas vos conneries, ça va être le bordel dans le futur. Donc, c'est vraiment le bordel.
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils arrivent au moment où ils allaient renvoyer de force les jeunes X-Men du passé en leur disant, il faut les renvoyer.
Oui, parce que c'est le bordel et que ça va pas.
Mais vous bloquez la machine au moment où on veut les renvoyer, bande de crétins. Et si vous venez du futur, vous devriez le savoir. Surtout qu'il y a des personnages qui sont présents à ce moment-là, donc ils devraient s'en souvenir.
Oui, mais bon, c'est tous les problèmes des paradoxes temporels dans les comics.
Des paradoxes temporels gérés par Bendis.
Le numéro s'ouvre simplement par Magic qui a voyagé dans le futur et qui a voulu voir ce qui se passait dans le futur. Et on voit des X-Men du futur qui se battent contre des sentinelles. Voilà. Donc en gros, ce numéro 1, Battle of the Atom, est un numéro introductif. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas suivi les All New X-Men et Uncanny X-Men de Bendis, ça nous rappelle un petit peu le statu quo. Donc c'est X-Men du passé, il y a une baston contre des sentinelles, très classique, qui vont rassembler les All New X-Men et les Uncanny X-Men de Cyclope, qui vont venir en soutien, qui vont passer par là par hasard, et ils vont faire un team-up malgré leurs différences de point de vue. Et voilà, c'est assez classique. Et finalement, ce numéro, c'est juste la... ça, il présente juste le statu quo qui nous a été expliqué, enfin le pitch de Battle of the Atom, c'est-à-dire les X-Men du futur qui débarquent. Rien de plus.
Comme tu l'as dit, c'est introductif, mais c'est introductif dans ton cul. Voilà, c'est une métaphore pour te dire que tu te fais enculer avec cet épisode. C'est destiné aux gens... Ah ou non, vraiment, vraiment, je suis énervé d'avoir lu ça et d'avoir dépensé de l'argent pour ça, oui. Je suis vraiment énervé. C'est destiné à un public qui ne connaîtrait pas du tout les X-Men. Et pas des gens qui, comme moi, sont en retard et qui sont pas forcément au point réel avec les dernières storylines. De toute façon, honnêtement, à ce que je comprends entre vos reviews, ce que je lis sur le net et ce que je lis là, c'est que on est au 16e numéro de New X-Men et au 11e, je crois, de Uncanny X-Men, il ne s'est rien passé.
Bah,
rien.
Honnêtement, à part la mutation de Beast et Angel, le Angel du passé qui a rejoint les Uncanny X-Men de Cyclope, c'est à peu près tout, quoi.
Il s'est rien passé. Bendis nous floue depuis le départ. Il se fout de la gueule de tout le monde. Et tout le monde dit merci. Mais réveillez-vous, les gens, n'achetez plus Bendis, c'est fini, quoi. Le mec, de toute façon, c'était une mauvaise idée sur les X-Men. Il le prouve là avec ce premier épisode. Excusez-moi, je m'étrangle. Il le prouve avec ce premier épisode de Battle of the Atom et avec l'épisode suivant de New X-Men dont tu vas nous parler. Tu l'as dit, c'est du classique, mais alors on peut pas faire plus cliché. Oh, on a découvert un nouveau mutant. Il faut y aller parce qu'il a l'air vachement puissant. Oh, on n'y arrive pas, il y a des méga sentinelles qui arrivent. Ah bah tiens, l'équipe méchante de Cyclope arrive. Ah bah on va faire un tandem.
C'est vraiment... C'est un exercice d'école, quoi. C'est d'un classicisme vraiment...
Et puis alors, oui, parlons de la pseudo-peur que l'on peut avoir dans l'épisode avec l'accident qui arrive au Cyclope du passé.
Non, ça c'est juste pour rappeler un petit peu les problèmes de paradoxe temporel,
oui,
etc. Quoi.
Oui,
c'est,
mais
c'est juste ça.
C'est juste la façon dont c'est rendu dans le comic, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas très efficace. C'est vraiment pas très efficace. Storytelling est pas efficace. Bon.
C'est une page de gâché totalement avec des trucs totalement invisibles. Non, il y a rien à sauver là-dedans. Franchement, il y a rien à sauver.
Je vais passer à All New X-Men 16 et on fera un petit wrap-up, comme disent les Anglais. Je l'ai bien dit, hein. Je l'ai bien dit.
Wrap-up. Oui, c'est pas mal. Oui.
C'est pas mal. Hein. Donc, All New X-Men numéro 16, bah, ça reprend à la suite de Battle of the Atom. Donc, bon, bah, les X-Men du futur débarquent. Donc, on a un Deadpool vieux, on a une Kitty Pryde vieille, on a Madame Xorn avec un masque de Xorn. Je vais pas révéler qui c'est, mais c'est un pseudo twist dans le numéro.
Ouais.
On a qui prouve
ce que je disais depuis la première review de All New X-Men, en fait.
On a un Iceman aussi du futur. Bon, voilà, tout le monde se rencontre. Et en gros, bah, ça blablate pendant 20 pages. Et le problème, c'est que Bendis qui blablate, bon, bah, ça, c'est classique. Bendis qui fait blablater les gens bien, c'est efficace et c'est dynamique. Là, le problème, c'est qu'il a 18 personnes à faire parler. À peu près, hein, plus ou moins 4 personnes, je sais pas, mais il a les 3 équipes de X-Men du passé, du présent, du futur. Il n'y a pas les Uncanny X-Men cette fois. Et là, ça marche pas, quoi. Il y a trop de personnages, c'est trop lourd, ça devient trop lourd à lire, c'est pas efficace, ça n'avance pas, ça blablate pendant tout le numéro.
Et ça remonte même les mêmes scènes.
Et ça remonte les mêmes scènes. Il nous fait le même coup qu'il y a quelques mois avec Uncanny X-Men et All New X-Men, c'est-à-dire que là, sauf que là, c'est dans le même numéro. On a une discussion. Et ensuite, la même scène, mais revue du point de vue de Jean Grey, qui parle en pensée avec d'autres personnages. Avec des bribes de dialogue qu'on a déjà lues avant. Donc, ça fait totalement soupirer le lecteur, en fait, de repasser sur des pages
et
de voir encore des bulles de dialogue qu'on a déjà lues avant. C'est absolument insupportable.
Moi, je les ai sautées. Honnêtement, je les ai sautées. Quand j'ai vu que c'était le même dialogue, je les ai sautées. Et pourtant, tu m'avais prévenu. Et du coup, quand j'y suis arrivé, que j'ai vu que c'était le même dialogue, j'ai fait, allez hop, je passe la bulle. En fait, le problème, c'est pas que l'idée est pas mauvaise. Tu reprends les mêmes dessins, les mêmes scènes, tu les mets en noir et blanc en gardant que Jean Grey en couleur, un peu ce qui a été fait. Ça marche, ça fonctionne. On comprend que ça se passe en même temps. Mais t'es pas obligé de réimprimer les bulles. Ça ne fait que surcharger le dessin qui est déjà bien assez chargé comme ça.
Oui, voilà, ça exaspère. Alors que ça aurait pu ne pas exaspérer.
Alors parlons très vite de la révélation de qui est Xorn. Pour toi, ça te plaît ou pas? Sans dire qui c'est, bien sûr.
Ça m'a fait ni chaud ni froid, honnêtement.
D'accord, ok. Bah, voilà. Ce qui était censé être le twist. Et puis alors, parlons de la réaction de la Jean Grey jeune.
Oui, bah c'est une réaction d'adolescent, quoi.
C'est une réaction de petite pute qui mériterait une balle dans la tête. Voilà.
C'est un petit peu violent, mais...
Sérieusement, ma gamine oui, agit comme ça, je te lui mets la branlée de sa life, elle va s'en souvenir. Non, mais c'est insupportable, un comportement comme ça.
On va avoir Famille de France sur le dos,
non, non, c'est
attention à tes propos.
Un comportement tel quel décrit par Bendis, c'est insupportable. Je ne sais pas où il a vu des enfants réagir comme ça, mais non, c'est pas du tout le cas. Les enfants n'agissent pas comme ça, les jeunes n'agissent pas comme ça.
Oui, c'est assez, oui, c'est infantile, c'est pas, bon bref. C'est le cœur du numéro, hein. Je veux dire, c'est ça, c'est la réaction de Jean Grey à l'avenue des X-Men du futur. C'est le cœur du numéro.
Ça donne vachement envie là, les gars. Là.
On est dans du sous comique, clairement. Ça, voilà, voilà ce genre, c'est typiquement le genre de comics qui jette le discrédit sur les fans de comics que nous sommes, du comics infantilisant pour les bébés.
Mais lu par des personnes de 45 ans.
C'est ça qui jette le discrédit total sur ce qu'on lit et ce que l'on aime et qui nous fait passer pour des attardés mentaux.
Ça va faire débattre.
Ah non, mais hein. Débattez dans les commentaires, les gens. Si vous n'avez pas compris, les deux, pour moi, sont des passes.
Voilà, bon, c'est très honnêtement... bon, on va passer quand même sur les bons points. Il y a quand même 2-3 bons points. Sur les dessins, All New X-Men 16, honnêtement, Immonen est bon dessus. Et il dépeint bien.
On a l'explication.
Il gère très bien. Il gère très bien le nombre de personnages en fait qu'il y a sur tous les panels, parce que bon, il y a quand même un paquet de monde, mais vraiment, hein, c'est littéralement, il y a beaucoup beaucoup de monde.
Mais on a l'explication,
on arrive à reconnaître
aussi
tout le monde.
On a aussi l'explication pourquoi il y a des cases qui sont réutilisées, donc ça lui fait quand même moins de pages à faire. C'est aussi pour ça qu'il a le temps de faire 5 pages de plus dans Battle of the Atom.
Oui, tout à fait. Mais après, ça
n'enlève rien à son dessin. Je veux dire, il a juste eu plus de temps pour se concentrer sur les pages et ça se voit du coup.
Les personnages sont bien, on les reconnaît tous bien, il y a aucun souci. Il y a un personnage qu'on connaît pas, que moi je connais pas, mais que vous connaissez sans doute, qui est apparu dans l'univers Marvel.
Gamine des Runaways qui a grandi.
Voilà, la gamine des Runaways, qui peut peut-être un peu m'intéresser.
Molly.
Voilà,
Bruno, le petit crush, qui
fait partie des X-Men du futur. Après, le reste Le reste de la team des X-Men du futur m'a pas passionné des masses. Bon, il y a un Beast qui a encore muté.
J'aime bien le look, honnêtement.
Le look est sympa du Beast. Bon,
celui du Iceman, par contre, est débectable, mais bon.
Bah, Iceman, c'est un Strum, quoi. C'est un gros monstre de glace, en fait.
C'est Hulk version glace.
Oui, c'est Hulk en glace. Bon, voilà. Bon, le dessin est pas mal. Le vieux Deadpool est rigolo.
Ouais.
Ce genre de papy.
C'est peut-être la chose qu'il écrit le mieux, Bendis. Peut-être qu'il faudrait mettre sur un titre Deadpool, après tout, peut-être que ça lui correspondrait. En plus des dialogues non-stop, casse-couilles et réverbatifs, ça correspond tout à fait à Deadpool.
Mais en fait, voilà, moi, ce qui m'a embêté, c'est que le principe de base, pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça, à part la double page au tout début de Battle of the Atom 1, donc je vous spoile pas, sur Magic qui voit le futur et qui voit juste les X-Men du futur se battre contre des tas de sentinelles, et ça a l'air, même moi qui n'ai pas lu de Claremont, de machin et tout, ça m'a l'air d'un classique. Mais terrible, je veux dire, j'attends de voir un truc vraiment intéressant dans ce futur qui fait que effectivement il s'est passé des trucs de fou et tout. Là, voilà.
Ce qui est très gênant, c'est d'une, la révélation de qui est ce Xorn. Ça me gêne profondément, comme je dis, revenez, réécoutez mes premières reviews de New X-Men dans les Comics Weekly où on en parlait, et vous aurez la réponse de qui c'est si vous voulez savoir. C'est exactement ce que je disais sur ce que Bendis voulait faire dans les All New X-Men. Deuxièmement, on nous a promis que ce crossover allait complètement bouleverser l'univers X-Men. Oh, mon Dieu, mais si c'est... en partant comme ça, mais moi ça me fait très très peur pour la franchise X-Men. Hein.
Moi, très, très honnêtement, pourtant je suis vraiment bon public et je suis plutôt nouveau lecteur, j'avais bien aimé le début des runs de Bendis sur les X-Men, je trouvais ça vraiment frais et sympa. Depuis 2 mois, ça me fait un petit peu chier. Honnêtement, si ce crossover me convainc pas, j'arrête les franchises X-Men après le crossover, quoi. Enfin, je vais le lire pour dire voilà, j'ai commencé une histoire, je la finis, mais si ça me convainc pas, j'arrête cette série, quoi.
Je t'avouerai que je sais donc, même pas si je vais aller. Enfin, je vais peut-être aller voir la suite parce que le prochain c'est X-Men, donc écrit
voilà,
pas par Bendis.
J'attends de voir ce que vont faire Jason Aaron et Brian Wood dessus, voir s'ils vont pas trop être étouffés par le pitch de voir vraiment ce qu'ils peuvent faire, parce que là je vois pas du tout vraiment où ça va, quoi. C'est très léger comme
dans le mur,
truc, quoi. Enfin bref, voilà, je sais pas, on peut peut-être donner nos notes parce
que
je pense qu'on
a tout dit. Double passe,
Double pass, bon, moi c'est pour Battle of the Atom 1, c'est un pass et on va dire un check-it si vraiment vous connaissez pas du tout les X-Men de Bendis. Voilà, c'est plutôt joli à regarder et c'est une petite aventure à la con qui introduit le truc. Si vous connaissez déjà, vous pouvez passer Battle of the Atom 1 et passer directement à New X-Men 16, juste en sachant que les mecs du futur viennent de débarquer, quoi.
Ouais, c'est, moi j'ai envie vraiment, même de dire, si vous connaissez pas, n'achetez même pas Battle of the Atom, juste un petit tour sur Wikipédia, vous aurez toutes les informations nécessaires.
Ouais, voilà.
Ça vous économisera de l'argent, vraiment.
All New X-Men 16, honnêtement, j'ai pas été convaincu par le lancement du crossover. Je suis très déçu parce que je m'attendais à des trucs. Il y a plein de potentiel à ce niveau-là et juste ce que j'ai retrouvé, c'est juste du blabla de Bendis où il se passe pas grand-chose dans le numéro alors qu'il aurait pu développer des intrigues vachement sympas avec ses personnages. Pour le moment, voilà. Donc ça sera un pass pour le Battle of the Atom et vraiment un petit check-it pour le New X-Men.
Ouais. Alors moi, c'est mon premier coup de gueule et ce ne sera pas le dernier de la journée, malheureusement. On y reviendra tout à l'heure. Je vais encore sacrément gueuler ce soir. Je vais passer pour le vieux con, mais tant pis, quoi. Là, ça m'insupporte. Passons à la suite. L'autre event en cours chez Marvel actuellement, c'est Infinity. Tu vas nous parler du numéro 2, Bruno, qui vient de sortir.
Ouais, et puis là, je vais vous parler d'un bon event. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, Infinity numéro 2, c'est Jonathan Hickman au scénario, Jérôme Opeña au dessin. Ça prend la suite de New Avengers et de Avengers qui sont sortis juste avant. On a vraiment de l'action sans interruption, avec toujours cette attaque sur deux fronts, à la fois l'équipe de Thanos qui arrive sur Terre et qui est censée récupérer les gemmes de l'infini, et de l'autre côté les Avengers qui se basent dans l'espace contre les Builders. Donc l'intrigue avance. On a aussi surtout toute une partie qui concerne les Inhumains, puisqu'on a enfin l'émissaire de Darkseid, de Thanos, qui arrive sur la Terre des Inhumains et qui vient discuter avec le chef des Inhumains pour lui proposer un deal assez crade, puisque bon, là c'est au début du comics, hein, je veux dire, il demande un tribut aux Inhumains, à savoir de la tête de tous les enfants âgés entre 16 ans et 22 ans. Donc quelque chose qui est pas très très agréable pour ce bon vieux Black Bolt.
Il aurait pu être pire. Hein. Il aurait pu demander des enfants beaucoup plus jeunes. Ça aurait été encore plus glauque.
Il aurait pu.
Dans l'espace. Faire un collier de tête de bébé.
Ah oui, non, mais il est Thanos, hein, il est extrême, hein, il veut faire plaisir à la mort, là, il veut des trucs assez crades.
Mais je suis pas sûr que ce soit Thanos qui désire ça. Je pense que c'est plus son émissaire qui veut ça.
Ah, je sais pas. Dans l'espace, on a la conclusion un petit peu de cette grande bataille qui s'était passée, où les Avengers et puis tous les autres extraterrestres s'étaient fait complètement voter le cul par les Builders. On voit qu'ils sont un peu tous disséminés dans différents fronts. Et là, on voit quelle est vraiment la force de frappe des Builders qui sont prêts à aller à des niveaux très extrêmes d'attaque. Ça met bien en avant aussi le peuple justement des Shi'ar, et puis on voit Gladiator qui est quand même assez badass dans ce numéro. Donc ça avance bien, et il y a un super twist dans la dernière case, un truc que je m'attendais pas du tout et qui m'intéresse, qui vraiment me donne envie de lire la suite. Un numéro en plus très très beau, hein, Jérôme Opeña qui vraiment fait des planches sublimes.
Weaver n'est pas mauvais non plus, hein.
Ouais, alors Dustin Weaver, il est sur quelle page? Il est sur la fin, c'est ça? Quelques pages.
Il fait les pages
fin.
Sur Terre, je crois.
Ouais, c'est ça. Mais ça reste très très cohérent, en fait. On n'est pas choqué par le. Ouais, c'est ça. J'avais oublié de préciser qu'il y avait Dustin Weaver, c'est vrai. Et donc vraiment un numéro qui m'a bien plu. Voilà, un event qui pour l'instant est pas mal. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Steve.
Ah, j'ai pas vraiment le même avis que toi. Je sens déjà une grosse baisse à ce numéro 2. Une grosse baisse. Ah ouais, clairement. À part la fin, qui est clairement, tu te dis, ah ouais, il y a quand même un bon petit potentiel. On a quand même pas mal de répétitions de ce qu'on avait vu dans Avengers et New Avengers. Alors, c'est pas la peine de nous dire qu'ils sont absolument à lire pour comprendre si on nous répète tout dans Infinity.
Ouais, enfin les répétitions, ça se résume à une double page. Enfin, c'est pas choquant.
On nous répète ce qui s'est passé sur Terre dans New Avengers, mais on nous répète aussi quand même ce qui s'est passé dans les pages d'Avengers avec cette bataille spatiale.
Donc ça fait déjà
4-5 pages en moins, quoi.
J'ai pas lu New Avengers, et du coup, grâce à cette double page, j'ai su bien ce qui se passait dans New Avengers.
Ouais, mais on passe à côté de pas mal d'intrigues, de sous-intrigues qui sont quand même assez importantes.
Ah mais certes, je suis d'accord. Après, mais le problème, c'est
pour
que
pour être vraiment dans le truc, il faut peut-être lire tout. C'est t'es plus plongé dedans, quoi.
Mais pour moi, c'est pas la peine de marquer, de faire une checklist derrière à la fin de chaque épisode en nous disant que ce sont des numéros à lire si finalement tu les répètes et que tu peux presque t'en passer et ne lire qu'Infinity. Tu vois, moi ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est presque 5 pages de bouffée sur un comic qui vaut quand même déjà bien assez cher. Et sûrement que l'ensemble de la semaine a fait que je suis nettement plus critique sur la moindre petit détail et que je vais rien passer du tout cette semaine. Mais comme je dis, ça, petite baisse, un petit coup de mou. Normalement, c'est plutôt vers la moitié. On commence déjà à sentir le coup de mou au deuxième. J'ai un peu peur. Surtout que, quand on calcule tous les numéros qu'il y a, il n'y en a pas 6, mais bien 18 à lire.
Ouais.
Donc au quatrième, déjà un petit coup de mou. C'est qu'un petit coup de mou, attention, hein. C'est un tout petit coup de mou. Mais ça me fait peur pour la suite. Cependant, ça reste un bon numéro.
Ouais, le cliff, moi, ça m'a laissé vraiment... sur le cul, quoi. Et après, tu te dis, par rapport au nombre de pages, c'est quand même déjà un numéro oversize qui est au prix classique, puisqu'il y a 24 pages de comics au lieu de 20 habituellement. Et au final,
attends,
c'est
4 pages,
c'est
de plus, pas... 4 pages de plus, mais on le paye quand même 3,99. Hein.
Ouais, mais jusqu'à présent, c'était plutôt 20 pages pour juste 20.
Ouais, certes,
pour 4,
mais chez DC, à 3,99, tu as 30 pages.
T'as du backup, ouais, un peu, ouais.
Voilà. Moi, ça me gêne de payer aussi cher, surtout
j'ai,
quand
j'ai pas compté
quand
les
pages
blanches de titres quand j'ai compté les 24. Mais...
Ah oui, non, mais moi, celle-ci, elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Surtout
contre,
qu'en
ça,
plus, imprimer du
blanc, ça fait quand même assez stylé,
si
moi, je trouve. Mais c'est quand même assez stylé, cette mise en page que choisit Hickman pour son event.
Oui, bah
justement,
c'est son
ses
côté
chapitres
graphiste,
et tout.
C'est son côté graphiste. Oui, moi, ça me déplaît pas non plus. Bon, on a toujours un roster sur la première page qui est... je sais pas comment il la fera tous tenir à la fin. Je pense qu'il faudra carrément une double page.
Il y a 50 personnages dessus.
C'est la classe. C'est la classe.
Il y a une cinquantaine à peu près. J'ai pas le nombre exact, mais c'est à peu près ça.
J'avoue qu'il y a Loki qui est marqué, il a pas un rôle hyper important dans le numéro, quoi.
Ouais.
Non, c'est clair. Petite blague, quoi. Mais, enfin, moi, ça reste quand même un gros bail.
D'ailleurs, tu parles, tout petit détail, tu parles de Lockheed, ça me fait repenser à All New X-Men, un détail que j'avais complètement oublié de mentionner. On est quand même au 16e épisode et on s'aperçoit, non, enfin, c'était dans Battle of the Atom, mais 16 épisodes après, les jeunes X-Men n'avaient toujours pas vu Cérébro. Et ils sont surpris quand Cérébro bouge. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Sérieusement? Voilà.
Ouais,
c'était
ils ont pas eu le temps de faire le tour de la Jean Grey School.
C'était la petite aparté. Pour moi, cet épisode, ce sera un check-it. Check it plus.
Bruno.
Moi c'était un bail. Moi j'ai dit un gros bail.
Flo.
Moi j'ai trouvé ça un peu parce que je suis pas trop exprimé parce que j'ai pas lu tous les tie-ins donc je l'ai juste lu comme ça. C'est un petit peu mou au milieu et le twist de fin est assez intrigant, c'est vrai. Il est très intrigant même. Enfin moi ça m'a mis un peu sur le cul. Donc ça sera quand même un bail.
Un bail.
C'est pas mal.
Bien.
Ouais.
Eh bien, on va passer à notre partie indé. On va commencer toujours avec du Hickman. C'est Bruno qui nous parle de sa nouvelle série, God is Dead, mais ce n'est pas chez Image.
Non, c'est chez Avatar. Et donc, c'est coécrit par Jonathan Hickman et Mike Costa, avec des dessins de Dee Amorim. Comme le titre le dit très bien, ça va nous parler de Dieu. Et en fait, c'est le monde va mal, hein, le monde actuel, hein, on sait bien, il y a des guerres et tout, la famine et tout, c'est le bordel. Et donc, ça commence avec la Terre qui se rebelle, et il y a des séismes partout, il y a des tas de gens qui meurent, et tout d'un coup, t'as des figures mystiques qui apparaissent sur Terre. Donc, t'as Zeus, qui arrive au Vatican, et qui se pose dans la chapelle Sixtine, et qui dit, c'est le bordel, je vais vous régler la situation. D'un autre côté, t'as les dieux égyptiens qui reviennent, t'as les dieux du monde Inca qui arrivent, tu as Odin qui rassemble ses troupes. Enfin voilà, c'est tous les anciens dieux qui avaient été oubliés un petit peu et qui reviennent sur le devant de la scène et qui décident de se partager la terre. Et donc les humains sont un petit peu pris au dépourvu. Et on va suivre un groupe de personnages qui est composé de plusieurs chercheurs qui essayent de trouver une façon de pouvoir un peu peut-être attaquer ces dieux qui sont ultra puissants. Donc le premier numéro, c'est vraiment présenter le concept du donner le pitch, voir présenter un peu les forces en présence. Et au final, c'est plutôt agréable à lire. On sait pas trop où il va aller. Hickman finalement est quand même pas très très courageux, c'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir des dieux modernes, enfin des dieux qui sont encore pour lesquels enfin les gens croient encore. Donc je sais pas, peut-être qu'il garde ça pour plus tard, ou alors il a peut-être peur de se faire attaquer par des extrémistes. Mais en tout cas c'est assez amusant à regarder. Graphiquement, c'est pas génial, mais voilà, ça se laisse lire, un petit check it, je vais dire, pour ce titre qui est quand même assez original. J'ai quand même en plus une variante avec un Zeus qui fait les yeux de Cyclope, c'est trop balèze, quoi. Voilà, il est trop trop balèze.
Un Zeus avec les yeux de Cyclope, donc en gros qui
Ouais,
tire des rafales optiques, quoi.
qui tire des grosses rafales optiques vertes et tout, il fait la pose de Super Saiyan, c'est la classe. Voilà.
Il y a des tics de X-Men quand même dedans, des
Alors,
trucs.
Beaucoup moins que
Ouais,
dans
c'est
Manhattan
co-écrit,
Project
ouais.
ou dans East of West. On voit un petit peu, ouais, dans la narration des choses assez hickmaniennes, mais je trouve quand même plutôt simple d'accès. Et puis on a tout de suite vraiment tous les indices qui sont placés dès le début. Voilà, c'est pas du tout obscur, quoi, comme comics.
Peut-être que son co-auteur a aussi fait en sorte
Ouais,
que ce soit
voilà, c'est
compréhensible
ça.
par tout le monde. Et puis, on est chez Avatar, on veut quand même. Enfin, loin de moi l'idée de critiquer les publications Avatar, hein. Il y en a beaucoup que j'apprécie, mais on est quand même dans du comic plus rentre-dedans, en règle générale, que du comic de réflexion.
Ouais, c'est un petit peu gore par moment. On voit du boobs, voilà, c'est du Avatar, quoi.
Très bien. On va passer à la suite. On va chez Vertigo avec le deuxième épisode de Trillium. Trillium qui sera mon coup de cœur de la semaine. J'hésitais avec un autre, mais vu que Flo l'avait déjà pris, je me suis dit, bon, on mettra deux coups de cœur différents, comme ça pourra aiguiller un peu plus les auditeurs. C'est toujours scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par lui aussi, avec des covers, des couleurs, je vais y arriver, des couleurs de José Villaruba, Rubia. Bon, je vais écorcher tous les noms, ce sera le truc de cette émission. Alors, à la fin du premier épisode, on avait un flipbook, hein, avec une première partie sur Nika, c'était cette terrienne, enfin, descendance de la race terrienne venant de 3797, et puis William, cet explorateur qui venait de 1921. Le pitch était simple, une histoire d'amour entre deux personnes, une dans un lointain futur et l'autre dans le passé, commence à aller se produire. Et à la fin du premier épisode, il tombait nez à nez. Suite à... Bon, lisez le premier épisode, vous en saurez plus. Voilà, vous savez, il y a juste besoin de savoir qu'ils sont nez à nez. Et bien là, on va avoir une leçon de storytelling avec cet épisode. On n'a pas une découpe avec un flipbook, on a une narration page après page. On va avoir une page, puisque ils ne se comprennent pas. La langue a énormément évolué, de par les influences extraterrestres, notamment dans le futur. Donc, Nika est incapable de comprendre l'anglais que parle William, l'anglais de 1921, et William, bien sûr, ne comprend absolument pas le langage que parle Nika, qui vient de 3797. Et on va avoir une page où on va avoir les bulles de William, qui va essayer de parler avec cette étrange personne qu'il découvre devant cette pyramide Maya, ou Inca, ou Aztèque, voilà, je ne forme ces personnes, hein. Et puis la page d'après, on va avoir les bulles de Nika, mais aucune répétition de la situation. Ce n'est pas du Bendis. C'est-à-dire que l'histoire avance, et une page, on va comprendre William, la page d'après, on comprendra Nika, tout le temps avec cette histoire qui avance et qui ne se répète pas. Et là, c'est véritable leçon de storytelling. Je pense que Bendis devrait lire ce comic. Ça lui ferait peut-être comprendre comment on doit écrire une histoire et pas nous faire ce qu'il a fait sur All New X-Men. C'est vraiment très très bon. On plonge dedans. Et alors, comment il représente les passages qu'on comprend pas, en fait, on voit juste des petits tirés quand les personnages s'expriment. C'est-à-dire que la page où on va comprendre William, Nika parle quand même. Mais on voit juste des petits tirés, ce qui fait que c'est totalement incompréhensible. Et puis la page d'après, c'est l'inverse. Franchement, c'est très très bon. On voit comment ils essayent de communiquer. Et c'est vraiment génial. Enfin, voilà. Mon vrai coup de cœur de la semaine, on se laisse complètement emporter dans ce deuxième numéro. Et malgré une absence de la moitié des dialogues, en réalité, qui sont imprimés, en tout cas, on comprend tout à fait ce qui se passe. Comme quoi, quand on sait écrire, voilà ce qui se passe. Donc, véritablement, un gros gros bail. J'ai vraiment envie de connaître la suite de cette histoire et voir ce qui va se passer, parce que ce qui se passe à la fin, comment cette histoire d'amour va pouvoir continuer, tout simplement.
C'est marrant parce que le premier, bon, j'étais en vacances, mais le premier avait été vraiment une grosse claque. Et vu comment tu racontes le 2, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est pour ça que voilà, tu le fais tout seul, mais je pense que ça aurait été aussi mon coup de cœur vu comment tu le racontes, parce que je pense que je vais vraiment prendre mon pied à le lire, quoi. Le
Ah,
premier
ouais.
était vraiment brillant et bon, voilà.
Excellent.
Ah là, moi, j'ai vraiment pris une leçon de grand comique, vraiment une très bonne leçon de comment raconter une histoire, même si on n'a pas de dialogue ou si les personnages ne se comprennent pas. Ils arrivent quand même à interagir ensemble sans se comprendre, et c'est tout à fait logique. Et c'est simple, et ça coule de source, et on n'est pas en train de se dire « Ouais, c'est un petit peu gros, là, quand même. » Non, non, là, tout fonctionne. tout est réaliste. Bon, malgré qu'il y ait quelqu'un qui vient du futur. Donc non, gros bail pour ce deuxième épisode de Trillium, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et voilà, une très très bonne mini, je rappelle c'est en 8 épisodes, ce sera pas très très long, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous n'avez pas encore découvert. Certes, le style graphique de Lehmayr peut repousser certains, mais ça correspond tout à fait avec le type d'histoire, la narration et le côté très très rêverie, très très calme, très posé, très doux, et enfin voilà, c'est très très bon comique, vraiment grosse grosse claque. On va continuer maintenant en passant chez Dark Horse avec une nouveauté, on en avait parlé dans les Weekly News, ça s'appelle The Star Wars numéro 1, c'est une mini, Flo va nous en parler parce que ce n'est pas le Star Wars.
Non, c'est une mini en 8 je crois.
C'est ça, ouais, 8 ou 9, quelque chose comme ça.
Alors, c'est un comics adapté du premier jet de scénario de George Lucas pour Star Wars, en fait, qui a été donc totalement remanié pour donner ce qui nous a donné le premier Star Wars sorti en 78, c'est ça. Si ça se trouve, je dis complètement
77, une connerie.
77. Donc c'est adapté pour le format comic book par G.W. Rinsler, que je ne connais pas. C'est dessiné par Mike Mayhew, quelqu'un d'assez talentueux d'ailleurs. Et alors, c'est très différent. En fait, voilà, on retrouve, c'est assez drôle, on retrouve des concepts et des noms qu'on va retrouver dans Star Wars, mais qui sont placés de manière totalement différente. En gros, là, il y a un empire. Dont l'empereur est protégé par une bande de par les Jedi en fait, ce qui s'appelle les Jedi Bendu ici, qui sont en fait les gardes du corps de l'empereur. Pendant des millénaires, ils ont protégé l'empereur. Il y a toujours eu cet empire. Et en fait, depuis récemment, il y a eu une rébellion des Jedi parce qu'ils trouvaient que l'empire, c'était devenu n'importe quoi, une dictature. Et du coup, il y a en fait un petit coin de la galaxie qui est en rébellion et qui n'appartient pas, alors, qui a fait sécession avec l'Empire et qui est en fait dominé par les quelques Jedi qui restent, puisque évidemment, quand les Jedi se sont rebellés, ils ont été exterminés. On suit Monsieur Starkiller, qui a deux fils en fait, dont un qui s'appelle Anakin. Ils sont un petit peu en ermite dans un coin de la galaxie, mais qui en fait est proche des limites de l'Empire. Et le petit frère, dont j'ai oublié le nom, se fait assassiner. Et il reste plus que son père Starkiller et Anakin Starkiller. Ces deux-là vont fuir et rejoindre la rébellion qui se prépare en fait à une attaque de l'Empire et de l'Empereur et de son général Vader. Qui n'est pas le Darth Vader de Star Wars. Ce n'est pas un Sith. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un général. Il a un petit peu la même armure, mais il n'a pas de casque. En fait, il a une tête tout à fait normale. C'est un humain.
Ah, ce n'est pas Lord Casque Noir, alors.
Ce n'est pas Lord Casque Noir. Pour... Quelle belle référence. En revanche, c'est plutôt Starkiller, en fait, qui est le prototype de Darth Vader, puisque son corps est quasiment entièrement robotique suite à des années de lutte contre l'Empire, évidemment. Et il va proposer, en fait, à son ami, le général Skywalker, qui est aussi un Jedi et qui est un général de la rébellion, il va proposer à son ami de prendre sous son aile son fils, Anakin, pour l'entraîner et qu'il devienne aussi un Jedi Bendu. Parce que lui sent qu'il se sent mourir parce qu'il est tout robotique, il lui reste qu'un bout de bras et sa tête en gros, donc c'est un peu compliqué pour lui, et voilà, et en gros tout ce beau monde se prépare à l'attaque de l'Empire. C'est pas passionnant, très clairement on comprend pourquoi c'est pas devenu Star Wars. C'est simple, vous regardez le premier Star Wars, l'intro est formidable, on comprend tout sur une scène qui a l'air totalement déconnectée d'une histoire, d'une méta-histoire. C'est un vaisseau qui se fait attaquer par Dark Vador. On comprend tous les concepts, tous les personnages dans une scène parfaite. Ici, c'est très compliqué parce que on démarre le comics sur Starkiller avec ses enfants. Ils essaient de s'entraîner comme ça et c'est pas du tout accrocheur. Puis ensuite, un gros débat, un gros discours de l'empereur. Donc c'est pas passionnant du tout. Visuellement, c'est très bien, je trouve. Mike Mayhew, c'est du photoréalisme. On va dire que c'est les visages sont détaillés, les décors sont détaillés. C'est parfois, par contre, trop statique. C'est le problème que ça a. C'est très statique. Voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est peut-être le défaut de Mayhew, mais moi j'adore ce qu'il fait.
Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment joli. Hein. Mais par contre, l'histoire est vraiment pas passionnante. Je suis très déçu. Je suis très déçu. C'est pas passionnant. Il y a des concepts sympas. Visuellement, c'est cool. Voilà, un petit exemple juste de concepts qui ont été mélangés par rapport au Star Wars qu'on connaît. La capitale de l'Empire n'est plus Coruscant, mais est Alderaan, qui en fait est Bespin. Vous avez
D'accord.
compris ?
Ils non, ont tout mixé, compris. Quoi.
Voilà, dans The Star Wars, Alderaan est la capitale de l'Empire et Alderaan ressemble au Bespin de Empire Strikes Back.
Ça fait tourner la tête tout ça.
Voilà. Donc bon, c'est pas génial. Et on sent que le scénario avait des soucis de rythme en fait. Voilà. Et ça retranscrit ces soucis de rythme hein, parce que le tout début, si c'est vraiment comme ça que commençait le scénario de Lucas, ça aurait pas du tout accroché de la même manière.
Donc voilà. Petite question quand même. Est-ce que comme dans Star Wars classique que l'on connaît, ça commence par chapitre 4 avec une petite un espèce. Bon, là, visuellement, c'était un texte déroulant à l'écran, mais au moins un texte comme ça. Ou est-ce que c'est une idée qui a été ajoutée par la suite?
Non, il y a un petit texte. C'est pas épisode 4. Non, pas du tout. Il y a un petit texte déroulant qui nous explique la situation de l'Empire, etc. Voilà.
D'accord, ok. Bon, il y avait déjà cette idée, mais c'était pas encore genre ça commence, c'était déjà au milieu de l'histoire. Il s'est passé des trucs avant que tu sais pas, mais.
Mais heureusement qu'il y a ce bloc de texte là, parce que sinon, effectivement, t'es un peu paumé, quoi. Même en prenant ça comme un truc en dehors, vraiment pas du tout en rapport avec Star Wars, c'est plutôt sympathique, il y a des concepts sympas. Si on le prend en rapport avec le vrai Star Wars, c'est vrai que c'est bien en dessous.
Mais est-ce que le fait de connaître Star Wars ne simplifie pas peut-être cette lecture? Et que si tu ne connaissais pas Star Wars, ça te paraîtrait plus obscur.
Aussi, parce que,
non, c'est oui, voilà, faut le prendre comme une curiosité.
On en a beaucoup entendu parler de ce premier jet, et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir adapté quelque part.
Oui, c'est vrai, c'est rigolo de
le
voir ça.
Le premier jet fait toujours plaisir, effectivement.
J'ai envie de voir plus de concepts développés visuellement. J'ai envie de voir plus de concepts développés visuellement. Par exemple, les Star Destroyer, c'est pas les gros vaisseaux qu'on a dans le vrai Star Wars, ce sont des vaisseaux de la taille d'un X-Wing, mais de la forme d'un Star Destroyer. Donc en fait, en termes de concept visuel, Mike Mayhew a développé ça. Voilà. La forme ressemble à un Star Destroyer, sauf que c'est un chasseur, en fait. Il y a plein de petites trouvailles visuelles comme ça, et c'est vrai que pour la curiosité de trouver ça, dans les autres numéros, on peut peut-être aller voir. Par contre, pour le storytelling, c'est pas génial. L'histoire est pas géniale.
Après, c'est tous les concepts art. C'est ennuyeux. Tous les concepts art de Ralph McQuarrie, et ça fait plaisir de les voir en comics, quoi. Donc, parce que c'est un peu un dieu du concept art, et là,
non,
c'est vrai de les retrouver.
Oui, mais en fait, il y a peu de concept art originaux de Ralph McQuarrie parce qu'il a pas développé de concept art pour ce.
Ouais, mais tu sais, les premières versions de certains personnages, c'est quand même assez proche de ce qu'il avait fait, quoi. Genre les premières fois qu'ils avaient fait ces 3PO, c'est comme celui qu'on a justement dans le comics.
Peut-être, mais là on a peu de concepts originaux. Enfin, ils ont été développés pour la série, à partir parfois effectivement d'esquisses. C'est Sean Cook et Mike Mayhew qui se sont occupés des concepts.
D'accord.
Voilà, donc ça sera juste un check-it pour moi. Je suis un peu
Très
déçu,
bien.
Mais j'en attendais peut-être trop. Hein. Si c'est le script qui n'a pas été retenu, forcément, c'est que s'il était moins bon. Hein. Donc bon, voilà.
On va retourner à la réalité maintenant avec un titre qui sort chez Image et qui s'appelle Reality Check. Vous avez vu la blague ?
Ouais, voilà. Et puis en fait, c'est un check-it aussi. Donc c'est pratique. Non, c'est pas mal. Alors Reality Check, de quoi ça parle ? Déjà, c'est écrit par Glenn Brunswick, et c'est dessiné par Viktor Bogdanovich, deux personnes que je ne connais pas du tout. Et donc Reality Check, ça nous parle de Willard Penn. Willard Penn, c'est qui ? Willard Penn, c'est un auteur de comics, un auteur
qui
non, pas vraiment. Il a un frère aussi dans le comics, mais son frère est mort. Willard Penn, c'est un auteur de comics qui, pour l'instant, n'a pas eu énormément de succès. C'est-à-dire qu'il a, il a bossé avec Marvel, avec DC, mais ses séries n'ont pas marché. Et là, il cherche le concept qui est censé être le concept qui va le sauver. Et donc là,
Marvel et DC sont vraiment
nommés. Ils sont nommés. Il a même une petite figurine de La Chose et de Captain America dans son atelier.
Putain, c'est couillu. Je trouve que c'est couillu de les avoir nommés carrément. c'est bien. C'est très bien, au contraire.
Voilà. Et donc, ce mec, en fait, il se réveille un matin et, en fait, il avait trouvé une idée géniale et il a tout oublié, en fait. Il se réveille, il sait il a tout oublié, il a son ordinateur qui a été effacé et il sait pas, il comprend pas. Et il a son éditeur qui l'appelle, il fait oui, on a signé ton contrat pour ce nouveau personnage que tu as créé. Et en fait, le premier numéro est déjà a été vendu complètement. Il faut faire un second print. Diamond a plein de gens qui sont abonnés dessus. Il faut absolument que tu nous balances le deuxième épisode. Sauf que le mec, il se réveille le matin, et il se rappelle plus de rien. Et donc c'est dans le comics. Il nous explique un peu justement quel est ce fameux comics qu'il a réussi à créer et qui est ce personnage qu'il a inventé. C'est le personnage de Dark Hour, qui est une sorte de Batman un petit peu libidineux, c'est-à-dire que c'est un mec qui cherche l'amour et il est un peu attiré par une méchante un peu façon Catwoman et il aimerait bien se la taper, mais il se tape déjà une nana aussi dans son avec son alter ego sans costume. Et en fait c'est un mec qui cherche l'amour. Et en fait il y a le pitch du comics, c'est que ce qu'il a créé, ça arrive dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a le héros qui arrive et qui vient le voir et qui lui fait, il va falloir que tu m'aides à trouver une meuf. Et je retourne pas dans ton comics tant que tu m'as pas trouvé une meuf. Voilà. C'est complètement barré. Le personnage principal, c'est le nerd assez rigolo, qui est fan de comics avec plein de références. Et il se retrouve pris dans une histoire complètement farfelue de mélange de réalité. C'est la fiction qui devient réalité. Et, franchement, c'est assez frais. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'est assez amusant au niveau des dessins aussi. Donc pour moi, c'est un petit check-it vraiment sympathique. Et j'irai voir le 2 avec plaisir.
Donc encore un voilà. Bon petit produit Image apparemment.
Bah ouais, un petit numéro 1 plutôt cool.
Ok, on va continuer avec un titre qui sort chez Dynamite maintenant. On va rester dans le côté un petit peu nerdy avec The Mocking Dead, une série de Fred Van Lente avec des dessins de Max Dunbar. Alors j'ai bien dit The Mocking Dead et non pas The Walking Dead, attention. Hein. Donc comme son nom l'indique, c'est une parodie. Mocking, hein, voulant dire justement, bah, c'est à peu près ça, à peu près le sens, hein, grosso modo. On va avoir donc une attaque de zombies, enfin... un débarquement de zombies, on ne sait pas trop d'où, on va assister au premier contact entre les zombies et les humains, on va voir un petit peu le résultat très vite dans une case, et puis on va revenir un petit peu en arrière, savoir un petit peu ce qui s'est passé, et on va découvrir un certain Aaron Bunch, qui va être le futur sauveur de l'humanité. En fait, ce Aaron Bunch avait travaillé dans une organisation secrète, développée par le gouvernement. Et oui, alors que c'est un nerd qui télécharge, qui connaît toutes les séries, toutes les références geeks, etc.
Ça commence avec, il est en train de scanner les nouvelles sorties pour les mettre sur Torrent, hein, donc les nouvelles sorties comics, c'est assez amusant ça.
Voilà, il y a plein de petites références comme ça, et donc le SWAT, enfin, ou en tout cas l'armée débarque chez lui en pétant les fenêtres, en venant en hélicoptère, etc. Et lui se dit, non, la liberté d'information, les gens ont le droit de savoir ce qui se passe, et on a le droit de le mettre sur le net. Enfin, voilà. Et, en fait, on vient le chercher pour réouvrir cette branche secrète du gouvernement qui s'appelle, je ne retrouve plus le nom de cette branche, qui avait un nom vraiment particulier.
C'est Tinseltown.
Voilà. Et en fait, c'était un espèce de regroupement de gens super geeks qui devaient développer des scénarios au cas où les choses de la littérature arriveraient, puisque c'était suite à un attentat sur Nixon, chose qui avait été décrite dans un roman et qui est arrivée en vrai, et donc ils se sont dit, oh là là, ce qui est dit dans le livre, ça peut être arrivé, donc on va peut-être essayer de prévoir une équipe de gens qui s'y connaissent et qui pourraient nous préparer des scénarios pour contrecarrer ça. Dans le cas où ça arriverait. Et donc, ils ont travaillé sur plein de trucs. Frankenstein, les vampires, les loups-garous, les momies. Enfin, il y a toute une liste. Les robots géants. Vous découvrirez ça dans le comic. Et donc, ils vont réouvrir cette branche en faisant appel à lui, puisque apparemment, c'est un expert S-zombie. Voilà. Mais malheureusement, j'ai à peu près résumé tout le comic. Alors, il y a pas mal de petites vannes, il y a quand même de l'humour, etc. C'est du Fred Van Lente. Cependant, je trouve qu'on n'en a pas assez avec ce premier numéro, perso. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Bruno.
Ah, moi j'ai adoré, j'ai rigolé du début à la fin. J'aimerais juste citer un extrait du film de cul qui passe dans sa dans sa chambre, qui est une parodie de Green Lantern, où elle lui dit Why don't you come over here and charge my power battery? Et là, il fait son serment In hardest day, in wettest night. Ça commence comme ça. Et là, je me suis dit ah, ça commence bien. Et je me suis beaucoup marré, quoi. C'est vraiment cool.
Non, après, c'est vraiment comme tu très dis, drôle.
J'ai été un peu déçu par le cliff. Enfin, il n'y a pas vraiment de cliff en fait, par la solution qu'il essaye de trouver pour endiguer les zombies. Mais je trouve le truc tellement con que, enfin, l'idée que le gouvernement puisse essayer de trouver des plans pour contrecarrer des menaces complètement farfelues, que
ça avait
bah,
déjà
ça m'a
été fait dans d'autres
marrer.
Séries, hein, notamment une série chez Image dont le nom m'échappe, mais ça avait déjà été fait. J'avais déjà lu une histoire comme ça.
Peut-être Oxhunter. Non, c'est pas Oxhunter. Non, c'était.
J'ai plus... mais, non, c'était pas Oxhunter. Mais je me rappelle plus le nom là, il m'échappe.
Mais
je suis
ça me faisait penser aussi à un truc que j'ai vu dans World War Z récemment. Avec, il disait qu'en Israël, il y avait un gars qui était censé toujours trouver. S'opposer aux autres, tous les trucs logiques, et puis qu'en fait il fallait qu'ils trouvent toujours la solution la plus illogique possible pour répondre à une menace, et c'était assez amusant. Mais
je suis en train de dire une bêtise, c'était peut-être pas chez Image, hein, ce que j'ai lu, c'était peut-être chez Boom ou chez IDW. Enfin, j'avais déjà vu des équipes comme ça de monter, enfin, ouais. C'est pas un concept nouveau.
Voilà, voilà, moi, ça, là, moi j'ai trouvé ça un peu original, mais si tu dis
c'est
que ça a déjà
amené,
été fait, voilà, mais puis, en tout cas, moi j'ai trouvé ça cool. Mais
on comprend ce que c'est que Mocking Dead aussi dans ce comic quand même.
Oui.
On nous explique ce que c'est que Mocking Dead et que ce nom, bon, certes, il y a le côté parodique, etc., mais ça a une véritable importance dans l'histoire. Donc, voilà,
après,
c'est pas plus con.
Ouais, graphiquement, c'est pas génial. C'est
bah,
pas génial.
C'est du noir
mais
et blanc.
C'est efficace.
C'est du noir et blanc, on n'avait pas précisé,
blanc.
Donc, pour rester dans l'esprit Walking Dead, avec du rouge. Enfin, en
ouais,
tout cas,
voilà,
du sang. Le sang est coloré en rouge.
C'est
enfin,
ça,
en
exactement.
Rouge très pâle, hein, quand même. C'est du rosé, quoi.
Mais voilà, moi, j'adore le personnage principal. Qui arrive avec son t-shirt au FBI avec marqué I will not obey. Je ne vais obéir à personne. C'est trop le geek.
Ouais, voilà. Mais c'est, enfin, comme je dis, c'est pas mauvais. Au contraire, moi, je me suis bien marré, etc. En fait, juste, il manque un petit truc pour être totalement accroché, je trouve.
Ouais.
Là, c'est vrai qu'honnêtement, la fin, bah, tu restes sur ta fin. Tu dis, ouais, d'accord, mais on va où comme ça, en fait.
Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Pour moi, c'est un point négatif, en fait.
Ouais. Moi, ça aurait été un bail s'il avait été à 3 dollars. Là, il est à 4, donc c'est juste un check-it. Ouais.
Pareil, moi, pour moi, c'est un check-it aussi, parce que c'est un bon moment, mais pour aller où, c'est bien la grande question. Voilà, on va continuer avec une autre série, Bruno, dont tu vas nous parler, Hit,
oui.
Numéro 1, et je ne sais plus chez qui ça sort, j'ai oublié.
C'est chez Boom.
Chez Boom.
Qui est en plein Boom.
Hit, oui, ça logique.
Exactement, et c'est mon coup de cœur de la semaine. Donc c'est écrit par Bryce Carlson, qui est un éditeur en fait chez Boom. Il édite pas mal de titres comme justement Adventure Time et d'autres choses. Et c'est dessiné par une nouvelle venue dans l'industrie du comics qui s'appelle Vanessa Del Rey. Et c'est du polar. C'est du polar noir. Ça se passe dans les années 30, je crois, à Los Angeles, à l'époque de Mickey Cohen, donc ce grand chef de mafieux et qui dirigeait un petit peu Los Angeles. C'est une période où justement il était en prison, et là on va suivre une équipe façon les incorruptibles, des flics qui la nuit vont régler un petit peu le compte de la pègre, et sans du tout tenir compte de la loi en fait. Et c'est carrément des juges, et ils vont exécuter les malfrats.
Judge Dredd, quoi.
Voilà, mais façon réaliste. Et donc c'est très bien écrit. On a un personnage principal qui s'appelle Harvey Slater, qui est le chef de cette bande, qui est bien campé par un personnage assez charismatique. On a de très bons dialogues. On a une mise en scène très bonne. Les dessins, je les trouve excellents. Franchement, elle a de l'avenir, cette jeune femme, parce que c'est vraiment très cool. Et après, on a bien sûr tous les poncifs du film noir de l'époque, avec la femme fatale qui se trouve être la fille du grand capitaine de la police de Los Angeles, qui a eu des gros problèmes de drogue et de choses comme ça, donc qui était partie de Los Angeles, et là qui revient et qui flirte justement avec le héros, et elle le met dans une merde noire. Voilà, c'est une mini-série qui est en 4 numéros. Si la suite est du même tonneau, franchement, ça sent vraiment le gros hit. Donc voilà, pour moi c'est un gros bail, et j'ai adoré ce titre.
De toute façon, on peut, enfin, être cliché, c'est pas une insulte. On peut être
non,
cliché
non.
Et s'en sortir très bien, au contraire. Et c'est même encore mieux justement quand on a des gros clichés, mais qu'on se dit putain, ça fonctionne, quoi.
Je trouve
ça bien.
Ouais, et puis il y a un film qui est sorti récemment qui était avec Sean Penn justement, qui jouait Michael Cohen, qui s'appelait Gangster Squad. Et on retrouve un peu la même ambiance, mais le comic c'est beaucoup plus. On va dire moins grand spectacle, c'est beaucoup plus en ambiance noire. Et si vous avez aimé le film Gangster Squad, qui était pas si mal hein, d'ailleurs au demeurant.
C'est marrant que tu en parles, parce que c'est le film que j'avais prévu de mater ce soir. Sincèrement,
bah,
c'est vraiment
voilà.
Le film que j'ai dans mon lecteur DVD prêt à être mis pour ce soir. Quoi.
Voilà. Alors, Gangster Squad, c'est beaucoup plus action quand même, mais par contre, ça, c'est vraiment les thèmes qui sont très proches. Et donc oui, c'est plutôt les années 40 en fait. Je me suis trompé. Voilà.
D'accord.
Donc un gros bail et mon coup de cœur de la semaine.
Très bien. Eh bien, maintenant, on va attaquer le gros du gros. C'est la partie DC avec toutes les grosses sorties de la semaine. On commence par Forever Evil. C'est Flo qui va nous en parler. Le numéro 1 de ce truc tant attendu. Ou pas.
Geoff Jones, David Finch, Richard Friend à l'ancrage. Ça reprend directement à la fin de Justice League 23. Donc, en gros, si vous n'avez pas lu Trinity War, je vous conseille pas la lecture, clairement. Lisez Trinity War, c'est nécessaire.
Alors, je suis pas forcément d'accord, je reviendrai dessus plus tard.
Je trouve pour l'introduction des vilains. Alors, je sais pas
dans
quelle
mesure...
sur
le fait que ça reprenne directement à la fin de Trinity War. Je suis pas personnellement d'accord, mais bon, j'en reviendrai plus tard.
C'est compliqué. Mais justement, enfin, il y a les deux côtés. En gros, ça nous raconte l'histoire de ces vilains. Est-ce qu'on peut le dire? On spoil Trinity War. Bon, on est obligé.
On peut faire, je pense, encore un peu.
Les méchants qui ont débarqué, des grands méchants qui ont débarqué de on ne sait où, vous le saurez dans Justice League 23, libèrent tous les criminels de la Terre entière, de toutes les prisons, de l'asile d'Arkham, etc. Et envisagent de dominer notre Terre, la Terre des New 52. C'est un petit peu le pitch finalement. Et il se passe plein de choses quand même dans ce numéro. On a en fait plein de petites séquences sur des points de vue différents de différents personnages. On a le comic se s'ouvre par exemple sur Lex Luthor qui est en plein deal avec Thomas Cord, le père de Ted Cord. Donc peut-être un indice sur un potentiel retour de Ted Kord en tant que Blue Beetle.
Ouais, parce qu'il n'a rien à voir avec Green Arrow, hein, disons-le clairement, c'est pas parce qu'il s'appelle Kord qu'il a un arc. Je me fais le générique.
C'est un personnage, son personnage Kord Enterprise, on en parle déjà dans pas mal de séries d'essai depuis le début des New 52. Et c'est intéressant de voir justement le patron de cette entreprise maintenant.
Voilà, donc c'est un des trucs à la Geoff Jones à nous mettre des trucs comme ça. Une séquence très sympa avec Lex Luthor, et en fait chaque équipe de super-héros ou personnages vit cette prise, en fait cette arrivée de ces grands vilains et essaie de réagir en conséquence. On a également une séquence avec les Teen Titans qui pourront peut-être avoir un rôle important à jouer à l'avenir.
De toute façon, la série est tie-in, donc ça a été dit clairement que la série serait tie-in à Forever Evil ainsi que Suicide Squad.
Ils auraient un rôle à jouer. La Suicide Squad, évidemment, puisque l'Argus est complètement détruit par ces vilains et que donc la Suicide Squad est déformée, n'est pas formée, Amanda Waller est un peu on the run. Et on a évidemment Nightwing qui, dans ce numéro, en prend plein sa gueule. Je ne vous spoil rien puisque c'est dans la preview qui est sortie il y a quelques jours, avec un gros twist et un truc très important qui va se passer sur Nightwing dans ce numéro, et potentiellement de grosses répercussions plus tard. Bref, un numéro très dense. Je suis un peu cryptique, mais je peux vraiment pas en dire beaucoup, si ce n'est que je trouve que ça pose bien les choses pour cet event. C'est un vrai, je trouve, un bon début d'event. Sur le côté temporel, je conseille d'avoir lu Trinity War avant, parce que le twist principal qui apparaît là apparaît pour la première fois dans Justice League 23.
J'étais juste pas d'accord sur le fait que ça prenait juste à la fin. Quoi.
Non, c'est pas. Oui, voilà, je me suis mal. J'ai mal formulé le truc. Ça prend pas juste à la fin parce que il y a une grosse ellipse, puisqu'on nous dit dans ce numéro que la Justice League est morte.
Ils sont morts.
Et ces vilains nous montrent d'ailleurs des preuves assez ostentatoires des choses ayant appartenu à ces héros.
Il y a la tête de Bruce Wayne sur un pic.
Le problème, c'est qu'on comprend déjà exactement comment ils vont revenir. Le fait qu'on ne voit pas de combat face à la Justice League et qu'on ne les voit pas mourir, on sait exactement comment ça va finir. Enfin, pour ma part, je sais déjà comment ça va finir et je sais très bien ce qui est arrivé à la Justice League.
J'ai mes idées sur ce qu'ils ont bien pu faire à la Justice League et aux différents héros, Bon, bref, moi en tout cas j'étais assez emballé. Graphiquement, c'est très sympa, c'est du bon David Finch, bien ancré, je trouve. C'est très sombre, comme David Finch sait bien faire. Avec ses défauts, c'est-à-dire parfois des visages qui n'ont pas tellement de, qui n'ont pas tellement d'expression, c'est un petit peu son souci, je trouve, sur certains visages. À noter une quadruple splash page qui montre tout un tas de vilains de l'univers d'ici rassemblés autour de.
Faut trouver qui c'est marrant.
De ces super vilains, donc c'est assez rigolo de voir tous ces vilains.
On donne un no prize à un de nos lecteurs ou un de nos auditeurs s'il arrive à citer tous les vilains qui sont sur cette double page.
Donc voilà, graphiquement c'est bien, je trouve qu'il est bon pour le job, enfin pour moi c'est solide. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi perso, j'ai pas franchement des masses accrochées, honnêtement. Déjà cette ellipse, nous dire que la Justice League est morte, mais vu qu'on le voit pas. Bon, bah voilà, on a déjà plein d'idées sur ce qui s'est passé. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas, je trouve. Je trouve ça très lent, très pompeux. Honnêtement, je me suis moitié endormi en lisant le comic, je déconne pas. Je me suis moitié endormi devant et je ne l'ai pas lu de nuit, hein, donc voilà, dans l'après-midi, je me suis moitié endormi devant tellement je m'ennuyais. L'histoire est pas mauvaise quoi, mais était-ce nécessaire d'en faire 40 pages pour faire autant de blabla qui ne sert à pas grand-chose ? Moi, je suis un peu déçu. Honnêtement, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un démarrage plus en trompe que ça. Bah, là, finalement, on n'apprend pas grand-chose qu'on ne savait pas déjà non plus. C'est un peu le même syndrome que Battle of the Atom.
Moi, je serais beaucoup moins négatif.
Je suis moins négatif que toi, quand même. Pour moi, ça vaut beaucoup plus le coup qu'un Battle of the Atom. Il y a beaucoup plus de choses dedans, quoi.
Non, je dis, c'est un peu le même syndrome. Je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose de plus que ce qui nous avait déjà été dit, soit en interview, soit dans les sollicitations. Moi, c'est un peu ça mon problème, encore une fois. Il y a des choses nouvelles. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le syndrome. Attention, je le compare pas du tout. C'est quand même nettement au-dessus, hein. Mais bon, moi je me suis un peu ennuyé, donc je sais pas ce que t'en as pensé, Bruno, vas-y.
Ah non, moi j'ai trouvé ça cool. Après, j'avoue, j'ai lu que 3 titres d'essai, les 2 autres j'ai trouvé tout pourri, ceux dont on va parler après. Donc quand j'ai lu Forever Evil, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bien cette semaine que je vais lire chez DC. Et j'avais quand même été bien, j'étais pumped là après la fin de Trinity War, parce que justement l'arrivée de ces méchants, j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, là tiens, je vais voir ce qui va se passer. Et au final, je trouvais ça assez satisfaisant. J'ai bien aimé que le comics vraiment soit raconté par Lex Luthor. Donc on savait déjà que ce personnage allait être mis en avant pendant Forever Evil, mais là on en a la confirmation. Je trouve ça assez couillu ce qui arrive à Nightwing, même si après on va voir ce qui va se passer au niveau des conséquences, mais on peut en imaginer tellement.
Moi ça aussi ça me fait chier parce que Dan DiDio est content, il a enfin ce qu'il veut, voilà.
Non, bon,
ça
là,
fait
tu trolles
années,
un peu.
Ça fait
oui,
des
enfin,
années.
Non, mais
qui
oui,
veut
oui,
faire
mais
ça.
Non. Enfin, ça peut être un gros élément de l'histoire. Donc, au-delà de ça, enfin, oui, c'est sympa de dire ça, mais on le sait, tout le monde le sait, que Dan DiDio aime pas Nightwing. Mais on peut pas dire que c'est juste un prétexte.
Ça peut développer des choses très intéressantes. Après,
parce que ce qui est lié à Nightwing,
c'est
lié à Batman, etc. Et on sait que ces vilains qui ont débarqué savent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les héros.
Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le Finch, j'aime bien ce qu'il fait, comme tu dis, parfois certains visages, je sais que son Lex Luthor, du coup je le trouve quand même beaucoup moins charismatique que ce qu'on a pu voir quand c'est Tony Daniel qui le dessine, ou d'ailleurs j'étais étonné qu'il n'y avait pas sa cicatrice sur les. Après j'ai peut-être quelques retards sur certains numéros de Superman, mais voilà. Mais après je trouvais ça cool, et puis alors la fin est complètement what the fuck, parce qu'il va falloir m'expliquer. Si ce super vilain va passer son temps dans l'espace pour régler ça, parce que bon,
enfin, mais déjà ça devrait poser d'énormes catastrophes sur le monde. Mais bon.
Ouais, déjà. Donc c'était un peu what the fuck. Donc on va voir ce qu'ils vont faire par la suite pour expliquer ça, mais bon, voilà. En tout cas, je trouve qu'on en a pour son argent. Là, j'ai pas regretté d'avoir mis mes 4€. La double splash page, elle est bien classe. Voilà.
Est-ce que je peux dire une scène qui m'a fait tripper, c'est quand un des vilains sniff quelque chose.
C'était bien vu.
C'est la culotte de Wonder Woman, on le sait plus.
C'était bien vu, même si bon, c'était pas nouveau. Enfin, on savait déjà ça. Enfin, quand on connaît un petit peu l'histoire.
Ceux qui connaissent ça, moi, je connais.
Mais
pas,
la façon de faire était bien vue. C'était pas mal ça.
Puis non, mais j'aime le rôle de Lex Luthor aussi dans l'histoire. Ça m'intrigue pas mal et ça me donne envie.
David Finch ne sait pas dessiner les gorilles, par contre. Mais voilà. Son Grodd est dégueulasse. Il y a une case avec Cheetah, Grodd et Deathstroke. Son Grodd, on dirait un monstre. Il est dégueulasse. Enfin bon, voilà.
Moi, je terminerai par une mention spéciale au What's New in the New 52, qui pour la troisième semaine nous remonte les mêmes covers. Où on n'a plus du tout de What's New in the New 52.
Moi, je les lis pas, ces trucs-là. Donc.
Non, non, mais enfin, non seulement c'était nul à chier avant. Alors là, maintenant, ils l'ont supprimé, donc c'est peut-être pas plus mal, mais là, ça fait trois fois qu'ils nous remontent les mêmes covers, quoi.
Ah, c'est la pub, c'est la pub.
Ouais, mais attends, tu changes, quoi. Au bout d'un moment, tu changes. Ah non, trois semaines d'affilée qu'on a les mêmes covers, quoi. T'as chez DC, franchement, il y a vraiment deux pages qui pourraient être utilisées pour des comics plutôt que nous faire ça, quoi. Et ça, vous les payez, ces deux pages. Faut l'avoir en tête que vous les payez, ces deux pages. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui, mis bout à bout cette semaine, m'ont vraiment gonflé, toutes maisons confondues, quoi. Enfin bon, on va passer aux notes, messieurs.
Moi, c'est un bon bail. Ça m'a bien. C'est solide. C'est pas extraordinaire, mais c'est solide. Voilà.
Moi, c'est un bail honnête.
Et pour moi, ça ne sera qu'un check-it. Voilà. On va passer à mon énorme coup de gueule de la semaine. Si je pouvais en avoir un plus gros que Battle of the Atom, eh bien, c'est celui-ci. C'est le Batman 23.1, alias Joker. Joker. On va revenir sur. Un peu la jeunesse du Joker, mais aussi, ça avait été dit dans les sollicitations, ce qu'il a fait pendant quelques années et le fait qu'il ait entraîné le personnage qu'on a vu débarquer dans Batman Inc., c'est-à-dire Jackanapes. C'est scénarisé par Andy Kubert avec des dessins d'Andy Clark. Alors, on en a parlé très rapidement avant le début de l'émission. J'ai pas forcément le même avis que toi sur Andy Kubert. Moi, j'ai vraiment un gros grief vis-à-vis de l'histoire. Ça, y a rien qui fonctionne dans ce comic. Y a rien. En termes de storytelling, c'est correct. L'histoire est pas mal racontée, mais c'est juste l'histoire qui est nulle. C'est nul à chier.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Parce que tu disais que ça te faisait peur pour la mini-série Damian, le fait qu'on découverte. Moi, je trouve pas qu'il raconte mal son histoire. C'est juste que son histoire est dégueulasse. Mais après, c'est.
Déjà, voilà, il a pas une très bonne idée. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a tout décidé de comment on allait décrire l'enfance du Joker, mais je trouve ça tellement pourri et tellement facile. Que j'ai un peu peur qu'il ait pas des idées très très intéressantes pour sa prochaine mini-série.
Pour moi, ça détruit le personnage du Joker plutôt que ça n'apporte une pierre à ce personnage. Personnage fonctionne si on ne sait rien sur lui. Et il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit. C'est comme, je reprends l'exemple de Walking Dead, mais c'est comme Walking Dead, on n'a pas besoin de savoir d'où vient l'épidémie. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'elle est là et qu'il faut faire avec. C'est pareil pour le Joker. On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Le simple fait qu'il soit là, ça suffit. Et là, on nous détruit le mythe. Et alors, en plus, en termes de continuité, mais c'est complètement à la ramasse. Il n'y a rien qui tient debout.
Ouais.
Je veux dire, Joker passe des années à élever un petit gorille, qui va devenir Jackanapes, mais il passe des années pour le faire grandir à taille adulte. Ça ne s'est pas passé en un an. C'est pas possible. Ça ne colle pas.
Ouais, surtout que quand ça commence l'histoire, Batman était déjà là, donc en plus. Donc.
Mais oui. En termes de continuité, c'est foireux. En termes d'histoire, c'est foireux. Il y a rien qui va. Franchement, ça c'est vraiment la merde de la semaine. Pour moi. Enfin, si tu veux rajouter des trucs, Bruno, je t'en prie, fais.
Non, enfin, je suis déçu par rapport à Andy Clark parce que j'aime beaucoup ce dessinateur et je trouve que côté graphique, c'était quand même plutôt cool. Mais l'histoire, voilà, je l'ai trouvée chiante. Je trouvais que. Voilà, que quand on voyait toutes ces scènes avec le Joker enfant, je trouvais ça facile. Et comme toi, je préfère qu'on ait un mystère sur justement qui est le Joker, d'où il vient, qui il était quand il était petit. Voilà, c'était mine de rien, c'était assez inintéressant. Alors après, il y a un truc assez étonnant, dernière page, ils nous disent si vous voulez en savoir plus, enfin il y a marqué to be continued et faut lire Batman.
Non, point d'interrogation.
Point d'interrogation mes fesses quoi. Mais ils incitent presque à dire oui, vous en saurez peut-être plus dans Batman.
Parce qu'on nous a teasé que c'était le Joker sous le masque du Red Hood depuis le départ. Alors, je sais pas s'il a écrit conjointement avec Snyder ou s'il s'est mis d'accord avec lui. Si c'est pas le cas, je dis bonne chance à Snyder pour attraper la merde qu'a fait Andy Kubert en termes de continuité là.
Voilà,
c'est irrattrapable. Le meilleur moyen, c'est de sortir totalement cette histoire et faire en sorte qu'elle n'ait jamais eu lieu.
Oui, ou que le Joker dise non, mais je vous raconte encore des merdes, c'est pas du tout ça ma vie, voilà quoi.
Mais là, si c'est fait dans les deux prochains mois, ça veut dire qu'on a claqué 2 ou 3 balles $3.99 en fonction de la cover qu'on a pris, si on a pris la 3D ou la normale, dans le vide. complètement dans le vide.
Voilà.
C'est, enfin non, enfin moi je vois pas ce qu'il y a à sauver là-dedans.
Bon, la cover 3D est stylée, mais c'est tout. Voilà.
Donc vous l'aurez compris, hein, là encore une fois, pour moi c'est un gros pass. Surtout évitez-le comme la peste. Vous vous en porterez mieux et vous garderez une très bonne image du Joker.
Ouais, moi aussi c'est un pass.
On va continuer avec toi Flo qui va nous parler d'un autre vilain emblématique de Batman. C'est le Batman et Robin 23.1 Two-Face. Et Flo n'a pas rallumé son micro.
Pardon, je suis là. Oh putain, j'étais rapide. Peter Tomasi au scénario et Guillem March au dessin. Donc Two-Face, parce que Two-Face sera un vilain qui sera central dans le prochain arc de Batman et Robin. Avec une très jolie couverture 3D de Chris Burnham. Qui, ma foi, on n'a pas fait un petit mot sur les couvertures 3D. C'est kitsch, mais il faut avouer que c'est bien fait. Voilà.
Oui,
il y a plusieurs plans et tout.
C'est du papier assez solide.
C'est pas du papier, c'est du plastique, c'est des couvertures
oui, c'est
en plastique carrément.
Ouais, c'est du plastique, mais qui est moins rigide que ce qu'on avait vu jusqu'à présent sur des couvertures 3D. A priori, par contre, il faut pas les mettre au soleil parce qu'elles fondent. Il y a des articles sur internet comme quoi il y a des gens qui avaient laissé leur couverture sur la plage arrière de la voiture, ils sont revenus, ils avaient des couvertures qui avaient fondu.
Comme les vinyles de l'ancien temps, les jeunes vont pouvoir connaître les vinyles qu'il ne faut pas laisser
donc,
sur les plages arrière de la voiture.
Mettez vos comics au frigo.
C'est sympathique.
Vite fait dire un mot sur les couvertures 3D. Je ne les ai pas vues, je n'ai pris que du digital cette semaine. Pour pouvoir faire l'émission, c'était plus facile pour moi. Donc je n'ai que des covers plates et j'ai payé mes comics 2,99. Est-ce que vous êtes content de vos achats d'avoir payé 1$ de plus pour ces covers 3D sur ce que vous avez acheté, Flo, Bruno?
C'est collector et puis c'est plutôt bien fait. Après, moi je m'en fous honnêtement, mais c'est
trop stylé, moi j'adore.
On sent qu'ils ont bossé dessus quoi. Les artistes et tout machin, c'est bien mis en scène. Il y a plusieurs plans, il y a au moins trois plans en fait, avant, normal et arrière-plan quoi.
Et il y a donc, même la pub pour Batman Arkham Origins qui est en 3D.
Et derrière, il y a la pub en 3D Arkham Origins.
Ah c'est vrai.
Bref.
Ouais.
Ah putain c'est cool ça.
C'est assez stylé.
Avec la neige et tout. Batman et Robin Two-Face. Donc c'est une histoire en fait qui est pour le coup tie-in vraiment à Forever Evil. Ça nous raconte en fait ce que fait Two-Face avant de rejoindre les rangs des vilains dans Forever Evil. Two-Face est à Gotham, il voit Gotham c'est un peu l'anarchie dans Gotham et il se rend compte que Batman n'est plus là et que c'est un petit peu le seul ce qui se rapproche le plus on va dire d'un justicier, voilà, puisque lui se considère comme un justicier et il va faire la rencontre de Scarecrow qui est un émissaire en fait des vilains de Forever Evil pour l'inviter à cette grande réunion, cette grande fête de vilains.
C'est une scène que l'on voit dans Forever Evil ça.
Tout à fait. Oui, on voit Scarecrow en fait qui a ce rôle, donc c'est plutôt raccord. Là c'est vraiment la première rencontre quoi pour l'amener à la réunion. Après il dit qu'il est ok.
Oui non parce que ce que l'on voit dans Forever Evil c'est la scène où il lui donne cette espèce de pièce qui ressemble à une pièce mais qui est un communicateur, ce symbole que l'on voyait tout le temps depuis Justice League of America et on voit cette. Bah si c'est raccord c'est bien, tant mieux.
C'est oui, en fait, il voit déjà cette pièce, mais il lui redonne dans Two-Face. Donc voilà, c'est plutôt raccord. Bon, bref.
Oui,
mais
non,
c'est une bonne histoire.
Ça peut se passer en même temps. Enfin voilà.
En gros, c'est une histoire qui n'a aucune conséquence, mais c'est très bien dialogué. C'est Two-Face qui se retrouve, qui retourne à la cour de justice de Gotham et qui va essayer de refaire la justice quoi. Et en tant que justicier de Gotham, vu qu'il n'y a plus le héros. Donc c'est très bien dialogué, j'ai trouvé. C'est une très bonne histoire, ça pète pas plus haut que son cul, ça fait pas les origines de Two-Face.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait pas très origin story quand même là.
Non, mais c'était pas forcément le rôle des Villains Month. Hein. Les Villains Month, c'est un focus sur un. Il y a des origin story et des choses qui se passent pendant Forever Evil. Donc là, ça se passe pendant Forever Evil et c'est. Voilà, moi c'est vraiment une bonne surprise pour moi parce que ça pète pas plus haut que son cul, mais c'est une très bonne histoire et ça donne envie de voir Two-Face dans Batman et Robin. C'est très bien dessiné par Guillem March. Le Gotham est bien dépeint, c'est vraiment bien foutu. Peter Tomasi est un scénariste de talent et il avait ça à faire et il l'a bien fait, sans en faire plus et sans en faire trop. Donc voilà, c'est un bon bail parce que ça paie pas de mine, mais c'est vraiment sympa.
Très bien. Eh bien, tu parlais de Gotham dépeint. On va passer on va rester sur du Batman, Batman Black and White. Vous voyez la vanne, encore une fois. Putain, un peu d'enthousiasme pour mes super lancements quand même. Batman Black and White numéro 1, mini-série en 4 parties si je ne m'abuse, qui, bah, donc, comme son nom l'indique, va faire des histoires de Batman en noir et blanc. C'est un concept qui avait déjà été fait dans l'ancien univers, ils le refont là. Bon, en termes de continuité, on sait pas où on est, et peu importe, j'ai envie de dire, ça se place totalement.
C'est hors continuité, on s'en fout.
Ça se place totalement hors continuité, c'est pas plus mal. On a 5 petites histoires, une histoire écrite par Chip Kidd, dessinée par Michael Cho, une deuxième scénarisée et dessinée par Neil Adams, qui s'appelle Batman Zombie, d'ailleurs, une troisième par Maris Wicks, et dessinée par Joe Quinones, une quatrième par John Arcudi, dessinée par Sean Murphy, et enfin, une dernière, scénarisée par Howard Mackey, et dessinée par Chris Samnee. Clairement, les histoires sont inégales. Ça reste bon dans l'ensemble. Il y a des histoires qui veulent peut-être essayer de dire des choses qui ne le sont pas bien dites. Je pense notamment à l'histoire de Neil Adams, une espèce de critique de la société avec un Batman zombie qui n'est plus qu'un gimmick, que quelque chose qui a une réelle utilité. Je n'ai pas compris pourquoi Batman était zombie, sincèrement. Ça m'échappe totalement.
Très étrange.
Est-ce une espèce de critique méta de la société du fait que bah il ne peut rien faire alors c'est un zombie et c'est un mouton.
Je pense
mais
que c'est ça,
franchement
oui.
Chercher loin et pour quelque chose qui je trouve est mal fait. Clairement. J'étais vraiment déçu par celle de Neil Adams, je m'attendais à beaucoup mieux. On a lu la première histoire par Chip Kidd qui est plutôt sympa, on a un Batman très proche du Batman années 60 dans la façon d'être écrit avec du côté très gadget etc. et surtout l'accent mis sur Robin qui est plutôt sympa. Enfin moi j'ai bien aimé celle-ci. Flo.
Ouais, très, très cool, très cool. Graphiquement, c'est vraiment sympa. C'est ça reste dans les poncifs, mais c'est très, très, très sympa à lire.
Ensuite, on a une des meilleures histoires, celle par Joe Quinones, avec le focus sur Harley Quinn et Poison Ivy. Joe Quinones est de toute façon très, très bon quand il dessine les femmes. Et un style très cartoony, mais tout en rondeur, qui correspond parfaitement. Et enfin voilà, une histoire complètement déjantée, complètement folle, et qui ne leur donne pas forcément le mauvais rôle en plus. Donc une histoire bien intelligente, je trouve.
Oui, en plus, elle est un petit peu plus longue, j'ai l'impression, que les autres, cette histoire. Et elle est vraiment très très bien dessinée, bien scénarisée. C'est drôle, c'est vraiment sympa. On retrouve une Harley Quinn avec son costume classique, hein, le costume de Bruce Timm, déjà, ouais. Ça fait plaisir.
Elle n'est pas forcément plus longue en fait, mais c'est surtout que la mise en page est beaucoup plus petite, on a beaucoup plus de cases sur
ouais,
les
c'est
pages.
Plus dense, c'est plus dense.
C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est plus longue, mais en termes de pages, elle est équivalente au reste. Hein. Je viens de regarder, j'ai fait le compte, c'est pour ça.
En tout cas, c'est pour moi la meilleure de l'anthologie.
Ensuite, une histoire par John Arcudi et Sean Murphy. Alors, Sean Murphy sur Batman, c'est vraiment très sympa. L'histoire de John Arcudi, il est beaucoup moins. On a Batman qui fait une poursuite et qui passe son temps à essayer de réparer sa Batmobile. Surtout quand on voit la chute.
Oui, voilà. c'est pas passionnant. Par contre, graphiquement, c'est vraiment cool. J'aimerais bien avoir une petite planche de Sean Murphy parce que il fait très bien les courses-poursuites.
Ouais. Ouais, non, c'est bon, ça reste agréable graphiquement, scénaristiquement moins. Et puis enfin, l'histoire de Howard Mackey et dessinée par Chris Samnee, que moi j'ai trouvé plutôt pas mal aussi.
Ouais, très cool. Bah graphiquement c'est super cool parce que c'est Chris Samnee. Et l'histoire est bien en fait, c'est centré sur le ventriloquiste. Mmh. Et ma foi, c'est vraiment bien écrit quoi.
Et puis c'est du Batman classique, voilà, une enquête avec un tueur, il sait pas qui c'est, il commence à avoir une idée, puis il va le chercher. Enfin, c'est du Batman classique mais qui fonctionne. Avec ça, tu peux pas te tromper quoi. Et ouais, bon, effectivement. Puis mon Howard Mackey, quand même, n'est pas un débutant non plus. J'ai aussi beaucoup apprécié les petites pages qui s'intercalent entre les épisodes, qui te donnent brièvement une petite bio de l'auteur. C'est toujours agréable, surtout
ouais,
pour les auteurs qu'on ne connaît pas.
Du scénariste et du dessinateur, ouais, c'est très très bien ça. Bon, en gros, c'est un numéro sans pub, que ça soit, enfin, même au dos, la quatrième de couverture est sans pub et tout. Donc ça fait vraiment anthologie un peu de luxe, avec une belle couverture glacée, avec un papier plus épais en couverture et tout. Donc c'est un objet sympa. On aimerait en voir plus souvent et voilà, c'est très bien.
Ouais, bonne petite lecture. Sachant que pour le prochain épisode, on nous promet du Raphaël Grampa, du Raphaël Albuquerque, du Jeff Lemire au scénario, d'autres aussi, enfin voilà, et du J.G. Jones aussi au dessin. Donc ça risque encore une fois d'être vraiment bon pour le prochain. Bonne petite surprise, j'ai envie de dire un check it plus parce que c'est pas essentiel, mais sinon un bail si vous aimez bien Batman et si vous aimez bien le noir et blanc, hein, clairement.
Moi, c'est un bail parce qu'on voit quand même des supers artistes. Et peu importe que ça soit hors continuité, c'est le plaisir de le lire qui est vraiment cool. Donc pour moi, c'est vraiment un bail parce que ça change. Ces petites anthologies, j'aime de plus en plus ça parce que voilà, c'est vraiment des lectures sympas.
Alors, je vais juste remettre dans le contexte pourquoi je dis que c'est pas essentiel. C'est surtout comparé à ce mois-ci avec tout ce qui sort d'assez important. Vous risquez de faire des gros achats. Vous pouvez peut-être remettre cet achat-là au mois prochain où ça risque d'être un peu plus calme. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Check It Plus et que je dis que c'est pas essentiel. Mais sinon, c'est très bon, oui, effectivement. On va continuer avec maintenant la Justice League. Bruno, tu vas nous parler du Justice League 23.1 Darkseid.
Oui, alors ce numéro, il est écrit par Greg Pak, avec des dessins de Paolo Siqueira et Neto Diaz. D'ailleurs, une petite note qui fera plaisir aux artistes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sur ces couvertures 3D, tout comme sur les versions 2D, il n'y a aucune référence des artistes en première page. Donc voilà, ils ont bien râlé en voyant ça quand ils sont allés dans leur comic shop, ils se sont dit, bah voilà, au moins... Pour savoir qui a fait tel ou tel comics, il faut absolument ouvrir le comic, c'est un peu l'arnaque. Donc voilà, alors ça c'était juste une petite chose. Dans ce numéro, on va revenir sur Darkseid et on va avoir ses origines. Pourquoi il est devenu si méchant, d'où il vient, est-ce que les New Gods c'était comme avant à l'époque de Kirby ou est-ce que c'est complètement nouveau. Voilà, donc vous aurez les réponses à tout ça dans ce comics. Ça commence avec sur une terre un petit peu étrange où on a des dieux, des titans qui se battent, qui jouent avec les humains, et on a un homme qui essaye de se rebeller. Cet homme, c'est le futur Darkseid. Il s'appelle Uxas au départ, avant de devenir Darkseid, et il décide de justement régler son compte aux dieux. Et de là, en fait, il acquiert un peu ses pouvoirs. Donc, on voit aussi l'apparition de Highfather, donc les deux antagonistes de Apocalypse et de New Genesis. Des origines vraiment complètement 100% nouvelles, 100% New 52. Par la suite, on a des liens également avec Batman Superman, puisqu'on a le retour du personnage du Trickster, qui est la méchante actuelle de Batman Superman. Bon, voilà, ça, c'est graphiquement, c'est plutôt joli. Ça explique un petit peu pourquoi Darkseid est allé attaquer aussi un petit peu le multivers. Par contre, ça, je trouve pas que ça le rend plus charismatique. Encore une fois, un petit peu comme pour le Joker, le fait comme ça de nous présenter Darkseid avant sa transformation, ça le fait de le rendre peut-être un peu plus humain. Finalement, je trouve que ça casse un peu son côté vraiment de méchant ultime de l'univers DC. Et voilà, je m'attendais à mieux au final. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Flo ?
Moi, j'ai trouvé ça solide. J'ai trouvé bien qu'on ait une vraie origine de Darkseid, alors qu'on n'avait pas eu dans les New 52, que je trouve vraiment valable, qui nous montre bien la personnalité de Darkseid, qui est voilà à l'origine de la baston des anciens dieux et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool à ce niveau-là et bien raconté. C'est un peu un poil pompeux, mais mais ça va, franchement ça va. Non, j'ai été plutôt conquis par ce numéro, par le storytelling de Greg Pak, efficace. J'ai bien aimé le fait que ça soit raconté par Trickster, donc le vilain de Batman Superman. Non, moi ça m'a assez plu. Graphiquement, c'était tout à fait valable. C'est pas exceptionnel, mais c'est tout à fait valable. Voilà.
Ça vous fait plaisir pour la suite de Greg Pak? Puisqu'on sait qu'il va arriver sur Action Comics aussi.
Je sais pas si ça sera vraiment en lien, mais en tout cas, je trouve qu'il.
Apparemment, il a dit qu'il semait les premières graines de son futur run là-dedans.
Oui, tout à fait. Oui, il y a des gros indices, des trucs assez assez dingues qu'on voit dans le comics sur la fin, notamment. Il a bien résumé ce qui se passe avec Darkseid sur Earth 2, sur Batman Superman, ce qui s'est passé dans Justice League, etc. Je trouve qu'il a vraiment réussi à faire le boulot de faire coller toutes ces apparitions de Darkseid dans un seul comic. J'ai trouvé ça vraiment un chapeau, quoi. C'est pas exceptionnellement écrit, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait, quoi.
Mais il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'il fait pas du tout référence à sa fille. Darkseid. Pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles il attaquait le multivers. C'est quelque chose dont on reparlait dans Justice League of America et dans Vibe. Là, ils en parlent pas du tout. Et du coup, ça m'a choqué. Et bon, après, peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard.
Ah ouais, j'ai pas vraiment. Oui, je pense que ça va revenir plus tard. J'ai pas été choqué particulièrement. Je trouvais la lecture bonne et il arrive à semer des graines sur effectivement Action Comics, Earth 2 et son Batman Superman. Donc j'ai trouvé ça efficace. Plus une petite histoire de Darkseid, d'origine de Darkseid. Donc ça fait le taf pour moi.
Donc finalement vos notes.
Moi c'est un bail.
Moi c'est un petit check-it. C'est moins une purge que le Joker, mais voilà, j'étais un peu déçu quand même.
D'accord. D'une Justice League, on passe à l'autre, puisqu'on va passer à Justice League of America 7.1 Deadshot, Flo.
Oui, alors c'est écrit par Matt Kint, dessiné, il y a deux séquences, il y a deux comics en un. Il y a une séquence dans le passé qui raconte l'origine de Deadshot et une séquence dans le présent. Celle dans le passé est dessinée par Carmen Carnero et celle dans le présent est dessinée par Sami Basri. L'origine story de Deadshot est plutôt bien faite. On voit, bah, c'est très classique, mais on voit voilà d'où il devient ce mercenaire très froid qui tue pour l'argent tout simplement et qui a pas plus de motivation que ça, qui est très désespéré dans sa tête. Donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là, notamment une mise en page qui raconte le massacre de sa famille, qui est faite en fait. Ça se passe dans les Narrows à Gotham et ça se passe dans l'appartement de ses parents et on voit de profil les pièces côte à côte, où est Deadshot dans sa chambre, le salon où sont ses parents et à côté, etc. Et on voit en fait la tuerie de profil comme ça sur différents, sur tous les panels. Et c'est bien fait, c'est inventif et je trouve ça cool graphiquement, c'est plutôt bien rendu. Enfin, c'est très simple, hein, mais parce que les artistes ont dû rusher parce que c'était pas ces artistes qui étaient sollicités à la base, donc je pense qu'ils ont dû rusher pour faire ce numéro en remplacement d'un artiste. Donc voilà, c'était sympa pour cette séquence. Et la deuxième moitié, ça se passe autant présent où c'est Deadshot qui en fait est en mission, a un contrat et sera contacté par Amanda Waller pour essayer de reconstituer la Suicide Squad. En gros, c'est un prélude au run de Matt Kint sur la Suicide Squad qui commence dès le mois prochain et qui sera tie-in à Forever Evil, en tout cas pour le premier arc de Suicide Squad. Donc je trouvais que c'était une très bonne mise en bouche de Suicide Squad et ça me donne très envie, voilà, de voir ça.
Donc un bail, quoi.
Ouais, c'est un bail, vraiment, c'est cool. Et cet auteur, faut le suivre, quoi. C'est bien écrit, c'est cool. Et j'irai voir la Suicide Squad alors que j'avais jamais vu.
C'est très bien la Suicide Squad.
Donc voilà.
Et pour qui ne connaîtrait pas du tout Deadshot, c'est lisible.
Ah oui, tout à fait. Bah, il y a toute la première moitié, c'est une origin story qui est vraiment très claire et qui nous montre vraiment très efficacement les motivations de Deadshot.
Parfait. Ouais, bah voilà. Ça, c'est le genre de truc que je trouve appréciable et qui sert vraiment dans le Villain Months, normalement.
Voilà, c'est carré.
On va passer à ton coup de cœur de la semaine, Flo, ce qui aurait pu être le mien aussi. C'est le Green Lantern 23.1, Relique.
Oui, Relique, scénarisé par Robert Venditti, l'architecte actuel des Green Lantern, de l'univers Green Lantern, et c'est dessiné par Rax Morales. Et ça nous raconte l'origine de Relique, le vilain principal là, de l'univers Green Lantern, qui a été repris depuis peu par des nouvelles équipes artistiques. On savait qu'il venait d'un univers qui a cessé d'exister, qu'il est apparu dans l'univers de DC. Et là, on nous raconte en gros voilà comment cet univers-là est mort et comment Relique avait prévu cette fin. Voilà, il s'est retrouvé à débarquer dans notre univers. Et ça nous en dit beaucoup sur la psyché du personnage, ses motivations. Ça l'approfondit beaucoup et ça lui donne vraiment beaucoup de relief. Ce qui en fait pour moi vraiment un vilain très charismatique et très efficacement dépeint par Robert Venditti, je trouve.
Et Dieu sait que c'est utile d'avoir du relief avec une cover 3D.
Tout à fait.
Oui, je suis le roi de la vanne ce soir.
Une cover 3D qui est réussie d'ailleurs. Aussi.
Ouais. Alors, un choix de storytelling très particulier puisqu'on a que des splash pages. Tout l'épisode n'est fait qu'en splash page.
Ça nous dépeint des phases d'histoire de cet univers où était Relique, où vivait Relique, avec des genres de... Oui.
Attention, parce que Bruno dit artbook, splash page ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte. Hein. Au contraire, c'est quand même bien chargé en texte.
Il y a de quoi faire, mais je trouve que ça se lit bien. Et moi, j'ai pas eu de soupir à la lecture et je trouve que le storytelling est bien, quoi. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur, parce que vraiment j'ai trouvé ça efficace et bien fluide.
Moi j'en ai eu juste un seul, c'est juste le choix de la police d'écriture pour Relique. J'ai pas été très très fan, bah c'est ce que je te disais, on en avait parlé un petit peu avant. Moi la police d'écriture m'a un petit peu cassé les couilles, parce qu'il y a des moments, certains mots, je les ai trouvés pas super simples à lire.
Ah ouais, moi
après
j'ai pas,
ça vient
j'ai
peut-être du fait que j'ai une version digitale sur ma tablette qui n'est pas une 10 pouces mais qui n'est qu'une 8 pouces 9. Ça vient peut-être de ça, mais honnêtement, j'ai pas trouvé le choix de police d'écriture très bonne. Ce n'est qu'un détail.
En tout cas, j'ai bien aimé cette manière de dépeindre cet ancien univers avec des, on va dire, des versions du spectre lumineux et des origines de la lumière et des rôles de chaque lumière, qui est vraiment bien réutilisé. J'ai trouvé ça en un numéro, il nous a fait une création originale qui aurait pu être ce que Geoff Johns a fait avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il nous a fait un truc que je trouve crédible. Il nous a dépeint un univers totalement crédible, je trouve, en un numéro.
Et ce sont les mêmes, chapeau. Mais avec des noms différents. En tout cas, pour les émotions. Avec des synonymes, proches, mais pas exactement les mêmes.
C'est la lumière violette de la passion, le rouge de la furie, l'orange de la gloutonnerie, voilà, c'est... etc.
C'est proche, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est proche, mais on comprend bien l'idée. Et puis, ce ne sont pas des anneaux, ce sont des sceptres. Donc voilà, ce sont des petits détails, mais qui rendent la chose tout à fait cohérente.
Et puis, le rôle que ces lumières ont dans le monde est très très différent de l'univers de Green Lantern. C'est vraiment, leur monde est vraiment façonné par ces lumières-là, etc., qui font la paix, font la guerre parfois, etc. C'est vraiment très intéressant. Et j'ai trouvé ça chapeau de raconter ça en un numéro, d'avoir un truc vraiment avec
ça
du relief
et
qui tient la route, quoi.
Ça tient totalement la route. Moi, je suis un peu rassuré sur Robert Venditti, que je trouvais quand même pas très très bon sur les précédents numéros Green Lantern. Son premier était bien, son deuxième était moins bien, son troisième encore moins. Là, ça me rassure. Ça me rassure et du coup, on comprend un petit peu ce qui va se passer pour ce prochain crossover qui débarquera le mois prochain, qui s'appelle donc Lights Out. Et du coup, ça donne envie de le voir, en tout cas.
Ah, c'est une pierre angulaire. Il faut lire ça, je pense. C'est un numéro à ne pas... Si vous suivez l'univers Green Lantern, lisez, ne le ratez pas, ce numéro. Il est très, très important.
Ouais. Clairement. Très, très bon. Un gros, gros bail. De toute façon, ton coup de cœur de la semaine. Ce qu'aurait pu être le mien aussi. Donc franchement, allez-y. Celui-ci est vraiment très bon.
Ouais, et Rax Morales est vraiment excellent dessus, je trouve.
C'est vrai.
Ça m'intrigue, tout ça.
C'est vraiment très joli. Moi, c'est un vilain qui a de... J'attends beaucoup de choses de Lights Out.
T'as pas eu le temps de lire, Bruno, mais je t'encourage vivement à rattraper très vite ta lecture. Déjà d'une, pour pas trop te faire spoiler. Et deuxièmement, parce que tu le regretteras pas, ça te fera passer très très facilement la pilule Joker et...
Darkseid.
Et peut-être Darkseid. Moi, pas de chance, j'ai commencé par Relic, j'ai lu Joker après. D'où peut-être le sentiment amplifié de déception sur le Joker, honnêtement.
Tu m'étonnes.
On va terminer très très rapidement d'un vers à l'autre avec Green Arrow 23.1 Vertigo. Flo, tu l'as lu?
Oui, très rapidement. Bah, c'est l'équipe habituelle de Green Arrow, en fait, hein, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, pour une origin story. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est quasiment les seuls qui ont gardé l'équipe de base. Donc c'est très beau, c'est Andrea Sorrentino, et ça nous raconte tout simplement l'origine du comte Vertigo, de son enfance, son exil de son pays d'origine avec sa mère, qui faisait partie de cette la famille royale, quoi, qui s'est fait renverser, à il s'est fait vendre, sa mère l'a vendu en gros à un institut un peu méchant qui lui a fait des expérimentations dessus, qui a fait qu'il est devenu le comte Vertigo avec ses pouvoirs psychiques. Et on nous narre donc son enfance, puis son retour dans son pays, la Vlatlavie. C'est un exercice classique, mais très très bien réalisé, je trouve, par Jeff Lemire. Ça donne de l'épaisseur à un vilain qui est passé, je trouve, un peu trop vite dans Green Arrow, qui s'est fait battre très vite. Et là, on revient dessus, et c'est tant mieux, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être développé dans la série normale, et j'espère le revoir dans Green Arrow.
Oh bah, pour moi, c'était sous-entendu qu'on allait le revoir. C'était juste première défaite, mais qui va revenir beaucoup plus méchant qu'avant.
Oui, il va revenir. Mais c'est très bien qu'il y ait ce numéro, parce qu'il se place parfaitement dans le Villains Month en termes de storytelling et dans la suite de l'histoire de Jeff Lemire sur Green Arrow. Pour moi, c'est très bien placé, et c'est une très bonne histoire.
Donc un bail.
Un très bon bail, ouais. Ça aurait pu être mon coup de cœur, mais bon, comme Green Arrow, c'est, en termes de qualité, c'est toujours aussi bon. Mais c'est un très bon bail, c'est vraiment top, quoi.
Et on va terminer l'émission avec nos traditionnels TPB. Alors cette semaine, ils ont été gentils, les éditeurs, ils nous ont pas inondé le marché, ils savaient que le marché était déjà bien inondé avec les singles. Ils ont pas joué trop les enfoirés. Donc, félicitons au moins cette initiative de pas inonder le marché de TPB alors qu'il y a tellement de sorties. On commence avec DC Necessary Evil, The Villains of the DC Universe qui sort, qui va reprendre tout un tas d'histoires différentes pour vous placer quelques vilains, avec notamment des backups de Countdown, on aura aussi Countdown to Infinite Crisis, du Black Adam, du Batman Villain Secret Files, du Batman, du Action Comics Annual, etc., etc. Pas mal de petits trucs, c'est 192 pages pour le prix de $16.99.
Pour voir un petit peu les anciennes incarnations des vilains, ça peut être intéressant.
Et puis alors au niveau des scénaristes et des dessinateurs, vous avez un panel monstrueux, on a du Jeff Jones, du Jeff Loeb, du Dennis O'Neill, du Dave Gibbons, bon je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, au niveau des artistes on a du Jim Lee, on a du Neil Adams, on a du Mike Mignola, du Doug Mankey, du Tim Sale, du Tony Harris, il y en a encore plein d'autres, c'est quand même le haut du panier en termes de scénaristes et de dessinateurs.
La classe.
Personne n'a rien à rajouter, tellement c'est balèze. On continue avec, si vous êtes masochiste, le hardcover de Age of Ultron, au prix de $75. Voilà. C'est beau, c'est frais. Age of Ultron 1 à 10, ainsi que le 10 AI, quand même, qui est une pierre angulaire à un nouveau monde de Marvel, bien connu. Un numéro à posséder absolument en 8 exemplaires dans sa collection. Au cas où, je vais le préciser, c'était totalement ironique, hein. Je
ça,
le précise.
Ça fait cher. sachant qu'il y a le kiosque VF qui commence ce mois-ci. Donc ça vous coûtera exactement beaucoup moins cher en VF.
Ouais, mais bon, il fallait le mentionner pour ceux qui préfèrent.
Ouais, ouais.
Pour ceux qui préfèrent les versions VO ou les gros objets. On a aussi tous les tie-in, hein, donc les Avengers Assemble 14 et 15 AU, Fantastic Four 5 AU, Fearless Defenders 4 AU, Super Spider-Man 6 AU, Ultron le one shot, Avengers Uncanny Avengers pardon 8 AU et Wolverine and the X-Men 27 AU, donc tous ces AU parce que c'était Age of Ultron. Honnêtement, des séries comme Uncanny Avengers, lisez-les. Si vous ne connaissez pas le reste de la série, vous n'allez rien comprendre. Parce que c'est absolument pas tie-in à Age of Ultron, mais juste une histoire supplémentaire dans la série Uncanny Avengers qui aide à comprendre beaucoup de choses. Bon, voilà. Si vous êtes vraiment masochiste.
C'est pas indispensable. Ça coûte très cher pour ce qu'il y a dedans. En plus, en termes de nombre de pages, c'est $75.
J'ai envie de dire, si vous êtes prêt à mettre $75 dans un produit, reportez-vous à la liste de TPB faramineuse de la semaine dernière, vous trouverez sûrement des choses beaucoup plus intéressantes.
Les tie-ins n'étaient pas terribles, chopez-le là en français si vous voulez, et les tie-ins n'étaient pas terribles. Il y avait des trucs sympathiques, mais franchement, ça valait pas le coup de les lire, d'acheter, de payer ça.
Ou alors attendez une édition TP, qui sera beaucoup moins chère.
Bah, qui va arriver pour Noël, hein, très prochainement.
Parce que clairement, c'était pas l'event du siècle, donc voilà.
Enfin, on termine avec un autre hardcover, beaucoup moins cher celui-ci, qui vaut $20. C'est un graphic novel, une histoire vraiment inédite qui ne sort que dans ce format-là, basée sur l'univers de Once Upon a Time, la série télé de ABC, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. ABC appartient au studio Disney, qui ont racheté Marvel, donc c'est logique que ça sorte là-dessus. Comme les bouquins Castle qui sont diffusés sur ABC, qui donc sont publiés chez Marvel. Là, c'est une histoire écrite par Dan Thompson et dessinée par Nimit Malavia, deux personnes que je ne connais pas, mais si vous aimez la série Once Upon a Time, si vous aimez son univers, c'est peut-être un graphic novel à au moins aller voir, puisqu'on va revenir sur la relation entre la reine et le chasseur. Pour ceux qui suivent la série, ça leur parlera.
C'est pas mon
cas. Ça n'a pas l'air d'être votre cas. Contrairement à moi, au moins je sais de quoi je parle.
Ah, t'aimes bien les séries girly, toi.
C'est pas si girly que ça en fait. Hein.
Ouais,
clairement. Clairement. Bon, je n'ai pas attaqué la saison 2, donc j'ai entendu beaucoup de mal sur la saison 2, ça me fait un peu peur. Mais la saison 1 était vraiment très bonne. Beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est tout pour cette section TPB, comme je vous avais dit. Très courte. 3 TPB à retenir principalement. Le reste, ce sont des choses qui sont déjà publiées en français, donc on a préféré ne pas les mentionner. J'espère que vous aurez de quoi choisir cette semaine. Les semaines prochaines vont être pareilles, avec énormément de sorties. Ce mois de septembre va être vraiment difficile pour les portefeuilles, sachant que le mois d'octobre va être difficile pour les portefeuilles pour ceux qui font de la VF. Avec quand même pas mal d'omnibus qui vont sortir. Et oui, ils nous assassinent pour la fin de l'année, c'est dur.
Ah oui, là c'est costaud.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette déferlante de comics. Et puis bien sûr, d'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, vous connaissez les manœuvres. Et bien sûr, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site, accompagnés de tous les autres articles. Et puis, mardi pour le Weekly News, votre dose d'actu, comics et dérivés. À bientôt!
À bientôt!
À bientôt, chers auditeurs!
back and